savez, on aura la synthèse de tout le cycle le 6 mai. Et ça se fera, comme vous le savez, le soir à partir de 19h30 à BNP Paribas Fortis. On a la chance qu'elle nous accueille là parce qu'on attend plusieurs centaines de personnes. Et aujourd'hui, donc, nous allons terminer en beauté avec Christian Léonard, qui est un chercheur qui a un parcours très, très varié et qui est chercheur maintenant au centre. Rappelle-moi exactement le titre parce que c'est assez compliqué. Le Canis Centrum.
C'est Centre fédéral d'expertise en santé.
Voilà, centre, voilà.
Mais je m'empresse de dire, je ne m'exprime pas en tant que
tout à fait.
Directeur de recherche là-bas, c'est en tant que professeur de santé, puisque on ne fait que des rapports scientifiques qui sont validés scientifiquement et qu'ici, je m'exprimerai aussi avec certaines opinions, c'est forcément pas par définition scientifique. Donc, voilà.
Tout à fait. Voilà, et donc nous allons parler des enjeux d'autonomisation et de responsabilisation avec une application bien sûr au secteur des soins de santé. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Christian qui, comme vous le savez, pour ceux qui l'ont reçu en tout cas, nous a remis un petit questionnaire et il va encore en remettre une copie à ceux qui n'auraient pas reçu et peut-être aussi pour ceux.
Je dirais tout le monde.
Pour tout le monde, oui. Pour après, parce qu'il voudrait aussi collecter quelques informations après son exposé. Voilà, je te laisse la parole, Christian.
Donc, on n'a pas un peu statistique, je vous reviens pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment. Et je vous demanderai de retourner la feuille à la fin de la matinée pour remettre à nouveau d'autres réponses, éventuellement. Ça me permettra de voir ce soir à la maison s'il y a eu un changement entre le début et la fin, si mon intervention a un effet sur ce que vous pensez du concept de responsabilité. Et donc, comme je le disais, c'est un but simplement illustratif. Je le fais de manière maintenant systématique partout où j'interviens. Je l'ai fait dernièrement pour plus de 300 personnes. Là, ça permet naturellement d'établir des statistiques et des corrélations. Mais c'est quand même intéressant de voir en fonction des caractères des personnes, donc sexe, âge, profession, s'il y a des liens à établir de manière au moins ici qualitative. Je vous laisse remplir pour une ou deux minutes. Entretenir du concept de responsabilité. Je dirais d'emblée que la première partie me rappelle peut-être l'impression que je suis opposé au concept en lui-même, ce qui n'est pas le cas. Je préfère le dire d'avance. Ça pourrait braquer certains esprits. Ma démarche tout à fait différente, c'est que, au contraire, je suis tout à fait favorable à une réelle responsabilité et responsabilisation. Et que j'estime que ce que l'on vit actuellement dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé, n'en est pas une. Donc je vais expliquer pourquoi et comment on pourrait, selon moi, arriver à une responsabilité authentique. Alors je vous lis un petit texte pour commencer. L'extrême inégalité dans la manière de vivre, l'excès d'oisiveté dans les uns, l'excès de travail dans les autres, la facilité d'irriter et de satisfaire nos appétits et notre sensualité. Les aliments trop recherchés des riches, qui les nourrissent de sucs échauffants et les accablent d'indigestion. La mauvaise nourriture des pauvres, dont ils manquent même le plus souvent. et dont le défaut les porte à surcharger avidement leur estomac dans l'occasion. Les veilles, les excès de toute espèce, les transports immodérés de toutes les passions, les fatigues et l'épuisement d'esprit, les chagrins et les peines sans nombre qu'on éprouve dans tous les états et dont les âmes sont perpétuellement rongées. Voilà les funestes garants que la plupart de nos maux sont notre propre ouvrage et que nous les aurions presque tous évités en conservant la manière de vivre simple, uniforme et solitaire qui nous était prescrite par la nature. Vu le style, on ne peut pas penser que c'est un discours de Nicolas Sarkozy, par exemple. C'est un extrait du discours sur l'origine de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau, 1754. Cela montre que la responsabilité, non, on n'utilise pas le terme ici, évidemment, est une vieille histoire. Hein. Si on effectue une généalogie de la responsabilité, on remarque que le concept apparaît déjà dans la Grèce antique, avec les tragédies grecques, sans utiliser le terme. Mais le concept est déjà là. Le terme arrivera beaucoup plus tard. Donc, il me semble qu'il y a une légitimité à se préoccuper du concept et des façons dont on en parle, dont on le verbalise, et de vérifier si ce concept est réellement de la responsabilité ou si c'est quelque chose de déviant par rapport à ce qu'il devrait être de manière originelle. On vous propose un petit parcours qui, comme le disait Laurent, bon, va s'ancrer dans les soins de santé, mais j'ai fait tout de même l'effort pour vous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on pourrait le transcrire, le transmettre, le transposer dans le domaine de l'entreprise. Je ne suis pas familier de l'entreprise privée, donc j'aurai beaucoup à apprendre de vous lors du débat. Bon, vous me direz si ma tentative a du sens ou pas, mais je trouvais trop confortable de rester dans le domaine des soins de santé, et donc j'ai pris le risque de faire ce pas vers l'entreprise. Vous me direz si ce risque a été suffisamment mesuré ou pas. Alors voilà ce que je vous propose comme petit plan. Ah oui, là, si je fais ça, très bien. Je vous propose comme plan, sachez où on se situe dans l'atelier. Je vous parlerai d'abord de ce que j'appelle les transferts de responsabilité. On pourrait également parler de pseudo-responsabilisation, que j'associe à des privatisations implicites. Ça, principalement dans le domaine de la sécurité sociale et des soins de santé. Ayant fait ce constat, on est dans le constat. C'est-à-dire, je prends des chiffres, je prends des mesures. Ce n'est pas discutable, mais ce sont des choses que l'on peut constater dans les livres, dans les textes de loi. Mon interprétation, c'est-à-dire en faire une privatisation implicite, là, peut être discutée. Étant donné ce constat, je pose la question de savoir si les théories de la justice redistributive, qu'on appelle également post-welfariste, c'est-à-dire qui se dégagent d'un courant que l'on connaît souvent sous le nom d'utilitarisme, donc qui considère que l'individu trouve son bien-être dans l'utilité, dans le plaisir, donc les théories qui se dégagent de cela, tentent de s'en dégager, que l'on retient, est-ce que ces théories nous apportent quelque chose d'intéressant sur la responsabilité? Est-ce qu'elles ont quelque chose à dire de pertinent qui donnerait une réponse au constat que j'ai effectué en premier temps? La réponse, vous verrez, sera relativement mitigée et appellera autre chose, une autre voie, un autre développement. Et c'est là que commence, je dirais, l'originalité, le côté personnel de ma démarche. C'est que là, je développe une procédure de libéralisation fondamentale de l'individu. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte que l'individu se libère réellement et une vraie liberté. J'estime effectivement que même dans les moments où on se croit le plus libre, on ne l'est pas vraiment, peut-être pas du tout. Donc comment pourrait-on faire pour arriver à ce que j'ai appelé la responsabilisation capacitante. Vous voyez, on a un double processus en fait. Hein. Responsabilisation, c'est le processus qui amène à la responsabilité. Capacitant, donc là aussi on a c'est un processus, ce n'est pas un concept figé. Et ça fait référence au concept d'Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie, philosophe et économiste renommé mondial, où je mets ensemble des capacités, il appelle ça des capacités et la responsabilité. Donc on a un processus, une sorte de cercle vertueux dans lequel on pourrait rentrer. Et tout ça naturellement semble théorique dans un premier temps, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenté de voir dans quelle mesure on pouvait trouver des portes d'entrée pour ce processus. Comment concrètement pourrait-on y arriver? Parce que, pour donner, après avoir bien réfléchi, vous me demandez, tiens, concrètement, dans ma vie, qu'est-ce que ça peut changer? Et donc, quand je travaille dans les soins de santé depuis très longtemps, il m'a semblé qu'une porte d'entrée était peut-être le domaine des soins de santé, parce que la santé, naturellement, nous concerne tous, c'est un bien transversal. Et pour l'occasion, je me suis penché sur la question de la pertinence de la porte d'entrée du travail, du lieu du travail de l'entreprise. C'est là que vous me direz si c'était effectivement pertinent. Voilà, donc voilà le plan que je vous propose. Ça devrait prendre au moins une heure pour que vous sachiez où on va. C'est toujours important de savoir à quel moment on peut lâcher un peu l'attention.
De pratiques de dépassement d'honoraires
et de chambres, de matériel. Pour les chambres libres, principalement, qu'on ne parvient pas à réglementer. Donc là se pose un réel problème. Dire vraiment, il suffit de choisir une autre chambre, une chambre à un lit. Toutefois, lorsqu'on a été hospitalisé, on se rend compte qu'avoir une chambre pour soi, ce n'est pas réellement du confort. Enfin, on pourra en discuter par la suite, mais donc ça, c'est un constat. Ce qui fait qu'actuellement, on peut considérer que 78% du total des dépenses de santé sont couverts par le public et 22% par le patient lui, avec une concentration, comme je l'ai dit, extrêmement forte. Donc ça, c'est un premier constat de transfert de responsabilité du collectif vers l'individuel. À ce stade-ci, c'est un constat. Certains diront, c'est très bien, et ce n'est peut-être pas assez. Si on pense, par exemple, au système des USA, où on revient en arrière, on l'a constaté maintenant avec le plan de Obama, là, c'est beaucoup plus fort, puisqu'on a 45% des dépenses totales qui sont publiques, pour les systèmes Medicaid et Medicare, et 55% qui sont totalement privés, avec une inégalité d'accès extrêmement importante. Certains diront c'est très bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu le mouvement de résistance à l'égard du plan d'Obama, même parmi des gens qui ont besoin du système, qui a priori auraient dû se réjouir d'une couverture universelle. Donc c'est extrêmement complexe, ce sentiment que l'on a par rapport à la responsabilité qu'on doit prendre par rapport aux dépenses de santé. Alors, la verbalisation, c'est-à-dire comment fait-on passer cette image, cette idée dans le public. Alors, bon, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose ici, j'essaie de systématiser un petit peu ma démarche. Et d'abord, le style de vie. Et si on fait son examen personnel, on se rendra très vite compte que l'on a, à l'égard des autres, un œil un petit peu jugeant. Hein, comment les autres vivent, comment ils mangent, est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils fument, est-ce qu'ils pratiquent du sport et de quelle manière. Et même si on veut dire, non, je respecte toute activité des autres, malgré tout, au fond de soi-même, dans certaines circonstances, il suffit que vous preniez votre fiche de paye, vous constatiez ce que vous payez pour la solidarité, et que juste après, c'est quand même beaucoup, et que juste après, vous rendiez compte que des gens ont apparemment un comportement qui est tout à fait antinomique avec une bonne santé, vous direz, enfin, c'est quand même pas normal. C'est un raisonnement qu'on a tous. Et moi qui suis imprégné de solidarité depuis des années, je le fais également. Donc, on peut se sentir libre par rapport à ça. Même si on est tombé dedans quand on était petit, hein, dans la solidarité, on pense à ce genre de choses. Je crois que c'est humain. Alors, il y a l'alimentation, mais et vous savez comment on ne va pas s'apesantir sur tout cela. On pourrait passer des journées entières à cet égard. Mais qu'est-ce qu'il faut manger pour rester en bonne santé? Ça change tout le temps. Donc, ce n'est pas très rassurant. Ce qu'on dit maintenant, est-ce qu'on disait il y a une dizaine, une vingtaine d'années, ça change tout le temps. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un avis vraiment figé sur la question? L'alcool, ça semble clair. Quoique, souvenez-vous, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, une étude est sortie en France disant c'est maintenant degré zéro. Pas d'alcool du tout. Alors, c'était plus question de dire un ou deux verres de bon vin rouge, c'était très bon pour la santé, non, c'était zéro. Vous avez sans doute vu aussi l'émoi que ça a suscité dans les journaux, avec certains qui disent oui c'est très bien, mais enfin, malgré tout des études disent que pour les maladies cardiovasculaires c'est quand même pas si mauvais. D'autres diront, des gens très sérieux d'ailleurs, et la convivialité dans tout cela, hein, autour d'une bouteille avec un bon verre de vin finalement c'est pas si mal, ça crée du bonheur, et bien rigoler, on se valide de bon sang comme on dit généralement. Donc vous voyez, c'est pas nouveau, pas scientifiquement pas très clair. Le tabac, je pense que là on est pratiquement tous d'accord. L'activité physique, nouveau. Il est assez étonnant de voir que dans l'enquête sur la santé des Belges qui est effectuée depuis 1997, c'est la quatrième édition maintenant en 2008, quand on demande aux gens s'ils pratiquent une activité physique, on ne leur demande pas s'ils travaillent de manière manuelle, parce que là, ce n'est pas considéré comme quelque chose de positif. On leur demande s'ils pratiquent une activité de loisir physique. Donc faire du vélo, faire de la course à pied, c'est bien, mais travailler manuellement, ce n'est pas considéré comme positif pour la santé. Quoique, hein. Donc, vous voyez la priori que l'on a derrière ce genre de questions. Et alors, c'est directement en lien avec les conduites à risque, c'est en lien, évidemment. J'ai entendu, il n'y a pas tellement longtemps, quand il disait, finalement, oui, je suis d'accord que l'activité physique, c'est très bon pour la santé, mais pas n'importe quoi. Alors, on commence faire du ski. Et tant qu'on n'a pas d'accident, c'est bien. Si on a un accident, naturellement, certains diront dans l'assurance, on ne devrait pas courir. Et donc, on peut aller très loin. À quel moment c'est bon, à quel moment ça devient réaliser cette responsabilité, cette pseudo-responsabilité, c'est l'observance, donc c'est la compliance dans le domaine médical. Il dira que un médecin qui nous donne une thérapie à suivre, il faut la suivre. Donc si on ne la suit pas, si on n'est pas compliant, si on n'observe pas cette thérapie et qu'on n'est pas guéri, ce sera en partie parce qu'on n'a pas suivi la thérapie. On ne se demandera pas nécessairement si la thérapie était bonne au départ, le diagnostic était bon, mais l'observance, si on n'est pas assuré, là on a un problème de responsabilité individuelle. La prévention. Là, ça paraît assez évident. La prévention, par exemple, le dépistage du cancer du sein, on fait une publicité actuellement, on entend les médecins qui parlent. C'est la première fois de ma vie que j'entends des médecins qui parlent. Est-ce qu'on est certain de ça? En Allemagne, il y a quelques mois, on a proposé une mesure extrêmement sévère qui prévoyait le doublement des cotisations des personnes atteintes d'un cancer qui n'auraient pas pratiqué le dépistage. Disons que s'ils avaient pratiqué un dépistage, donc dépister le cancer plus tôt, le soigner plus tôt, et qu'on serait allé moins loin dans la thérapie, ils auraient été moins coûteux. Ça a l'air évident. Dépistage implique qu'on dépiste un cancer, on peut le prendre en charge plus facilement et plus tôt. Mais est-on certain que tout dépistage systématique est favorable? Positif. Non. La plupart de la littérature montre d'ailleurs qu'un dépistage systématique n'est pas souhaitable. Parce qu'il génère beaucoup de faux positifs et de faux négatifs, et qu'il faut le réserver à des personnes à risque ou à des tranches d'âge à risque. C'est le cas, par exemple, du cancer du sein. Donc, dire d'emblée, si on n'a pas été dépisté, on supporte financièrement une charge plus importante, c'est faire fi de toute une connaissance scientifique. Et c'est instrumentaliser une connaissance scientifique partielle pour pouvoir se décharger, donc faire ce transfert de responsabilité du collectif vers l'individu. Conscientisation santé, oui, donc c'est utilisé plus également. Quand on parle de l'introduction d'un ticket modérateur dans notre façon, ticket modérateur, modérateur de quoi? Modérateur de consommation de soins. Et donc, ça s'est imprégné naturellement d'une idéologie néoclassique, conventionnelle, hein, avec les groupes d'offres et de demandes, les économistes et les autres ici la connaissent, et on baisse le prix d'un bien augmente, la quantité demandée va diminuer. Donc, force est ce constat, cette idée, donc, si on augmente le coût du soin de santé, le prix pour le patient, il va consommer moins, avec l'idée contrairement qu'il consomme un peu comme il consommera un bien de consommation courante. Alors les sources de performance, là naturellement c'est beaucoup plus large, mais il est vrai que l'idée que si on échoue dans sa carrière, si on échoue dans son couple, dans sa relation amicale, dans sa santé, si on tombe malade, il y a aussi un petit peu l'idée que on n'est pas parvenu à maintenir son capital santé. Donc, quelque part, on en serait quand même responsable parce qu'on détient ce capital. Il n'y a vraiment pas de raison, étant donné justement l'accessibilité des soins de santé, les messages de prévention qui sont connus, l'ensemble des conditions de vie, l'hygiène de vie est telle actuellement dans la religion, qu'il n'y a pas de raison de tomber malade de cette façon-là, à ce moment-là, aussitôt. Et donc, la performance imprègne également le domaine de la santé, le domaine imprègne le domaine du travail, notamment. Quelques exemples de mesures. Vous connaissez sans doute le prix de référence. Donc, le prix de référence est appliqué dans de nombreux pays dans le monde. Ça concerne les médicaments. Et ça consiste en ceci, lorsque votre médecin vous prescrit un médicament, original, pour lequel il existe une molécule générique, eh bien, l'assurance maladie calcule le taux de remboursement non pas sur le prix de l'original, mais sur le prix du générique, qui est forcément moins cher, et qui en Belgique peut être au moins 30% moins cher. Donc, dans les faits, ça veut dire que vous payez, en tant que patient, nous payons, en tant que patient, nous payons la différence de prix entre le générique et l'original. Étant donné que le générique, normalement, par définition, il est bioéquivalent, donc il a les mêmes effets primaires et secondaires dans le corps comme le cas original. On peut se demander pourquoi on prescrit l'un plutôt que l'autre, et pourquoi c'est le patient qui paie la différence. D'autant que normalement, ce n'est pas le patient qui prescrit. C'est le patient un peu, naturellement, avec certains souhaits par rapport au médecin. Et donc, si c'est un transfert de responsabilité vers l'individu, avec l'idée que c'est finalement, in fine, l'individu qui est responsable du choix du médicament sera prescrit. Donc les bonus, c'est un système qui a été appliqué aux Pays-Bas avec la volonté explicite de réduire les dépenses de santé. Il consistait à rembourser au maximum 255 euros en fin d'année pour les patients qui auraient été économes de dépenses de santé. Donc on leur remboursait une partie de leur prime. Donc si au 31 décembre, ils n'avaient rien dépensé, on leur remboursait 255 euros. Pour chaque euro qu'ils avaient dépensé, ils auraient touché un euro de moins. Donc celui qui avait dépensé 255 euros ne touchait rien du tout. Donc on pensait que ça allait faire réfléchir les gens. Sachant qu'on avait la carotte du remboursement d'une partie de la prime, on allait être économe pour dépenser ça. Forfait d'urgence non justifié en Belgique entre 2003 et 2007. Vous voyez donc que le nouvel bonus, on l'a stoppé en 2007. Le forfait d'urgence en Belgique également. Ça consistait à faire payer un forfait pour les personnes qui sont en urgence sans réelle urgence. Donc, sauf si on était renvoyé par un médecin ou par la police, un accident, on ne tenait pas ce forfait, dans les autres cas, on était censé payer ce forfait. On ne s'est pas trop demandé à ce moment-là quelles étaient les raisons pour lesquelles les gens se rendaient aux urgences plutôt que généralistes. Est-ce qu'il y avait une présence généraliste suffisante, une garde suffisante? Est-ce que c'était une question d'accessibilité financière? Sachant que quand on va aux urgences, on ne paye rien, donc on va avoir chez généraliste, on va pouvoir avancer de l'argent. Donc là, je ne dis pas qu'on n'a pas tenu compte, on le savait. Donc on s'est dit à nouveau, la seule façon de freiner l'action des urgences et de réserver l'urgence pour les cas d'urgence, là la finalité est positive évidemment, c'est simplement en introduisant un incitant financier, ça va suffire. Le conditionnement du remboursement du tartrage à une visite auprès du dentiste. Là, c'est une mesure qui a été prise uniquement pour des raisons budgétaires. On vous a dit, on a des dépenses dans la dentisterie, elles ne sont pas importantes, il faut les réduire. Alors, le tartrage est assez cher à ce moment-là. Il suffit de me subordonner à une visite régulière du dentiste. Donc, ceux qui vont chez le dentiste régulièrement pourront se faire rembourser des tartrages sans aucun problème. Évidemment, ceux qui ont besoin, réellement besoin des tartrages, sont souvent ceux qui n'ont pas souvent chez le dentiste. Mais se présentant chez le dentiste pour la première fois, si le dentiste constate que, étant donné la condition des tartrages qui sont indispensables, normalement il leur dira, écoutez, ça vous fera 4 cadrans, un ton par cadran, ça sera cette somme. Si on va pas chez le dentiste pour des raisons financières, il est peu probable que la personne accepte à ce moment-là de se faire déplacer. Donc, on constate tout de même qu'en termes d'accessibilité aux soins préventifs dentaires, bien cette mesure budgétaire, économique, a freiné cette accès. Donc, le but, naturellement, c'est pas que tout le monde se trouve avec l'absence de dents, mais dans les faits, pas c'est que ceux qui ont des auditions n'auront pas de meilleure audition, on pense que c'est au contraire. Donc on dira même, ils finiront par avoir des caries, on devra arracher leurs dents, mais au même moment, pratiquement, on a supprimé le remboursement pour l'extraction de dents. Donc là, vraiment, on se rend compte que les personnes qui ont de mauvaises santé dentaire sont un petit peu coincées, parce que pas des tartrages remboursés, in fine, l'extraction dentaire est également non remboursée. Alors, plusieurs systèmes de franchise dans différents pays, c'est une liste qui est non exhaustive, plusieurs mesures comme cela, où chaque fois, il faut remarquer, chaque fois, ça c'est important de le souligner, c'est chaque fois un incitant financier, c'est-à-dire, soit on dérembourse, on fait payer plus cher, on a un système de franchise, donc c'est toujours l'idée que l'incitant financier va faire agir le consommateur de soins dans un sens ou dans un autre. Dans le contexte. Donc, qu'est-ce qu'il faut, selon moi, même prendre en considération et connaître pour se faire une meilleure idée de la pertinence des mesures que l'on vient de présenter. J'essaie de prendre ici quelques exemples relativement récents. Vous avez ici, c'est un exemple parmi d'autres, c'est l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes à l'âge de 25 ans. Je dirais de l'enquête sur la santé des Belges, qui est effectuée sur un échantillon de 10 000 personnes, qui est actuellement bien connue, et c'est la quatrième édition de l'édition. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors que les différences d'espérance de vie, tout court, sont relativement proches entre les catégories sociales. On est pour les hommes et les femmes entre entre 3 et 5 ans d'espérance de vie différente entre la sociale, socio-économique la plus basse et la plus élevée. En revanche, si on se penche sur l'espérance de vie en bonne santé, donc absence de maladies chroniques, absence d'incapacité, d'invalidité, de handicap, et bien là on remarque que pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, à 25 ans, les hommes ont une espérance de vie de 53 ans en bonne santé. Alors que pour les personnes qui ont un diplôme d'enseignement supérieur, eh bien, on a l'espérance de vie en bonne santé de 71 ans. Donc, vous avez une différence considérable entre une vingtaine d'années d'espérance de vie en bonne santé. Évidemment, la bonne santé versus la mauvaise santé, morbidité, ça génère des coûts de santé, des thérapies, des médicaments à prendre. Et donc, au plus le transfert se fait, il se fait aussi vers les personnes qui ont forcément un niveau de morbidité. Et on voit qu'il y a une répartition parmi les couches sociales et économiques très différente.
À ce stade,
je ne fais pas encore d'interprétation de jugement quelconque, je constate. Et ce constat.
Oui, j'allais dire, et j'aurais peut-être dû le dire, c'est le fait d'avoir un diplôme ne protège pas, et l'absence de diplôme ne protège pas non plus. Mais je pense que tout le monde ici, et je prends votre remarque comme une blague évidemment, on sait bien, c'est pas le simple fait d'avoir un diplôme pendu dans son bureau, ou plusieurs qui nous protègent de la maladie. Hein. Ce n'est pas comment on l'utilise, hein. Alors, autre chose, une étude qui a été réalisée par le service d'études des médiathèques chrétiennes sur 4,5 millions de personnes. Et, là aussi, j'ai extrait quelques résultats. Ceux qui sont intéressés, il y avait donné des slides, après, toutes les références sont mentionnées. Et bon, ici, je lis très rapidement. L'idée, c'est de montrer la différence, chaque fois, le ratio entre la classe la plus faible et la plus élevée ici, avec 5 classes prédéterminées sur base des secteurs statistiques. En Belgique, nous avons pratiquement 20 000 secteurs statistiques pour lesquels on connaît quand même des données sociales et économiques intéressantes qui ont été couplées aux données de santé, de dépenses de santé, particularité. Et cela a permis de mettre en évidence la différence entre la classe la plus faible et la classe la plus élevée. Donc, ici, j'ai listé quelques items. En termes de mortalité, vous avez à chaque fois le ratio en rouge, mortalité 1,45, décès à domicile 0,76, CID, des soins palliatifs notamment. Il existe des études qui montrent que, de manière générale, les personnes préfèrent décès à domicile et que si elles ne le font pas, il y a souvent des questions, notamment financières, d'encadrement. Donc, si on voit que la couche sociale, socio-économique, l'a priorisée, à moins d'opportunités de le faire. Incapacité primaire de travail, 1,55. Devenir invalide, 1,66. Toujours un peu dans le même sens. C'est presque du café de commerce à dire cela, mais lorsqu'on met des chiffres sur les idées naturellement qui ont été établies de manière scientifique, on se rend compte que, oui, ce ne sont pas des grandes idées comme ça qu'on pourrait manipuler de manière un peu générale. Oui, on sait bien, oui, mais avec des chiffres, on n'a pas souvent l'occasion de voir ces chiffres et de se dire à quel point à ce point. L'admission à l'hôpital psychiatrique 2.2. Et on pourrait passer maintenant la matinée à parler rien de ce point-là. Pourquoi 2.2 pour ce type de soins? Dans un monde où nous savons, sur ce que nous savons, que nous sommes parmi les champions de la consommation de médicaments, notamment psychotropes. Et que la consommation de psychotropes augmente chaque année un pourcentage qui fait rêver des actionnaires parce qu'ils voudraient avoir le même pourcentage de croissance de leurs dividendes. Donc, c'est interpellant. Soins dentaires préventifs, c'est un lien directement ce que j'ai dit juste avant, 0,64. Donc, ça confirme bien le soupçon qu'on peut avoir en décrivant la mesure concernant le tartage. Facturation de forfait pour soins d'urgence, à nouveau, 1,64. Donc, je n'ai pas mis ces deux lignes-là par hasard, c'est le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, on a constaté que les personnes les moins favorisées, c'est celles qui ont le plus payé ce forfait. On peut se demander, tiens, pourquoi sont ces personnes-là qui payent ce forfait d'urgence? Est-ce que derrière cela, il y avait une raison pertinente d'aller aux urgences, notamment financière? Je pense que urgence en termes financiers plus important que pour le généraliste, évidemment. Donc c'est forcément ce personnel-là qui devait être délivré. Et donc on l'a supprimé en 2007, voyant que finalement, c'est une mesure socialement discutable. Je suis tombé hier justement sur un papier extrêmement récent du journal scientifique de la section médicale américaine, qui est sorti fin du mois de mars, c'est vraiment extrêmement récent, qui montrait une étude qui avait été menée sur des fonctionnaires londoniens depuis 1985, donc c'est une cohorte qu'on a suivie très longtemps, avec à 4 reprises une évaluation du mode de vie des gens. On considérait les systèmes du style de vie que je disais tout à l'heure, donc alimentation, tabac, alcool, et en prenant ça en considération, on a pu constater que le ratio ici de 1,6 et que 72% du gradient était expliqué par le style de vie. Vraiment, attention aux conclusions. Et voilà, on voit bien qu'il y a un gradient, qui est important, il est expliqué à 72% par le style de vie. Donc se dire le style de vie explique les inégalités de santé, oui, clairement. La test. Mais derrière cela, on s'arrêterait. Mais bon, qu'est-ce qui explique le style de vie? Donc, alors, il faudrait une autre étude pour dire maintenant qu'est-ce qui fait que, justement, ces personnes qui ont un style de vie qui est néfaste pour la santé, pourquoi se retrouvent-ils dans telle catégorie sociale? Et que peut-on faire? Et donc, progressivement, j'arrive avec mon idée qui va arriver en deuxième partie de parcours. Donc là, simplement faire le constat. Et se dire que l'on va solutionner la chose avec un incitant financier, ça me paraît pour le moins léger. Hein? Et c'est ce qui m'amène à continuer ce contexte. On a dit la remise en question du système d'assurance, hein, c'est une le gradient socio-économique. Et troisième élément, tout à fait lié à ma dernière remarque, le paradigme anglais. On peut y adhérer ou pas. Ce que je remarque, c'est de plus en plus d'économistes qui ont été formés dans ce paradigme néoclassique. On dit que l'homo economicus est un personnage qui est rationnel, qui maximise, nous dit-on, son utilité, son contrainte budgétaire. On nous apprend en première année comment on trace les coûts de la différence, comment on les obtient en maximisant cette utilité, qui n'est pas très bien définie finalement. Que par chaque fois qu'on maximise l'utilité sur contrainte budgétaire, on a un point de demande d'un produit. Et qui explique finalement pourquoi la quantité demandée va diminuer si le prix augmente. On remarque que sur fond cette hypothèse, tout le reste est bâti. Tout. Et chez dans l'entreprise, c'est pareil. C'est la même hypothèse utilisée pour la démarche du producteur, sa maximisation du profit. Et de plus en plus de personnes parmi les plus influentes et importantes au niveau intellectuel, économistes, philosophes, sociologues, se posent des questions sur le cas. Dernièrement, je viens de lire un bouquin de Kurilski, qui n'est pas du tout économiste, qui est biologiste, qui a écrit un bouquin sur l'altruisme. C'est insensé. Comment peut-on croire cette hypothèse de base? Comment peut-on vivre avec cela? Alors si on s'arrête au cours de sciences éco, on a intérêt à remettre en question en première année en tant qu'étudiant l'hypothèse de base, autant changer de section tout de suite. Il y a peu de chances de réussir les examens. Mais le problème, c'est que si on ne remet jamais en question dans les 5 années d'études, après on plonge dans la vie, on est ici comme ça, et même si on n'utilise pas tous les jours cette hypothèse, si on ne maximise pas tous les jours des utilités, des fonctions et de l'agrangien, si on ne passe pas tous les jours, on en reste imprégné de plus en plus. Donc, ce que je propose comme démarche, je pense que d'autres m'ont proposé d'autres manières de mon question, c'est de s'arrêter, de dire, mais est-ce qu'on est vraiment comme ça? Ou est-ce qu'on nous demande de l'être? Ou est-ce que c'est fonctionnel de l'être? Pour autant que, aussi longtemps que ça marche, ça fonctionne. Puis lorsque ça ne marche plus, on est malade, on est au chômage, tiens, ça nous interpelle. Finalement, est-ce que j'ai le temps maintenant de réfléchir? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Et donc, dernière ligne, ça rejoint ce que je disais auparavant. Comment se fait-il que, pour soi-disant responsabiliser le patient, on utilise uniquement des incitants financiers? évidemment, ceux qui pensent à cette vue sont imprégnés de ce paradigme. Ils disent que la seule façon de faire changer les gens, c'est de trouver la bonne carotte ou le bon bâton. Et la bonne carotte et le bon bâton sont essentiellement financiers. On commence à lire maintenant la littérature, et pas littérature vraiment scientifique, c'est-à-dire plutôt plus de rapports, ce qu'on appelle littérature grise, notamment on suivait ça dans certaines entreprises. Je pense que ça peut vous parler, ça. Des entreprises qui essaient de mettre en place des systèmes d'incitants différents. Ils vont chercher à fédérer leurs employés, à trouver un mode de vie auquel ils adhèrent, pas seulement chez eux, mais aussi dans l'entreprise. Avec l'idée de faire une entreprise, une espèce de grande famille, mais pas simplement en disant, voilà, je veux la productivité, je veux le salaire. Ça continue à être comme ça, en grande partie. Mais ça commence à changer un peu. Donc voilà le contexte dans lequel on s'inscrit. Et voilà ce qui m'amène à poser la question, voir est-ce qu'on est face à une réelle responsabilité, se sent-on réellement responsable lorsque l'on paye plus cher un médicament ou une prestation médicale, lorsqu'on nous dit que finalement on aurait dû faire un peu plus de sport, ou boire moins, ou pas fumer, ou est-ce que c'est autre chose? Et mon constat à ce stade-ci, c'est de dire que là, quand je lis cela, quand je vois ces mesures qui sont prises, personnellement, je ne me sens pas responsabilisé réellement. Je me sens comptable de quelque chose. Oui. Là, le transfert de responsabilisation, de responsabilité, c'est rendre les gens comptables de quelque chose, certainement. Mais est-ce cela être responsable authentiquement? Ma réponse est non. Alors, on va dire, bon, vous n'êtes pas d'accord, on n'a pas responsabilisé les gens de manière authentique, mais ça marche. Et en tant que ministre des Affaires sociales, ou de l'emploi, ou qu'entrepreneur, moi, ce qui compte, c'est que ça marche. Ça porte des fruits. Est-ce le cas?
Ah, c'est pas possible. Non.
Je prends trois critères. Tout ça est rapide, hein. On a une demi-journée pour en discuter. Je ne peux pas aller dans le fin de tout, mais efficacité, équité et adéquation. L'efficacité. Ce n'est pas par hasard si les mesures que j'ai montrées ont été interrompues. Le no-claim bonus chez nos amis du Nord, ils avaient vraiment envie de réduire les dépenses de santé. Constat, rien. Pas de modification pendant nos dépenses. Et on a fait des enquêtes, une qui vient de sortir très récemment, on a demandé aux Hollandais ce qu'ils en pensaient de cette mesure. La plupart des gens disent, mais écoutez, la santé d'abord, hein, je ne vais pas commencer à m'abstenir de consommer des soins parce que je vais toucher 255 euros si je ne dépense rien toute l'année. Donc il y a quand même une primauté à la santé, une démarche dans laquelle les gens vont se faire soigner parce qu'ils ressentent le besoin de se faire soigner. Donc ils l'ont stoppé, ils ont remplacé par une franchise. Là, ce n'est pas un problème, une franchise, on sait que les gens vont moins la payer parce qu'ils diminuent les dépenses, évidemment. Mais donc, appelons un chat un chat. Disons simplement, on cherche à réduire les dépenses publiques de santé et n'essayons pas de responsabiliser les gens parce que quand vous prenez les attendus de la loi, qui est mentionné par une prise de responsabilité des consommateurs, eh bien, ces gens vont consommer moins, parce qu'ils seront conscientisés et responsables. C'est pas ça. Alors, imaginez, bon, le cas des soins dentaires, évidemment, on peut toujours reporter, hein, je dis, pas de détartrage remboursé, puis on ne rembourse pas les soins dentaires, dans ce cas-là, si on ne rembourse rien, il n'y a plus rien comme coût pour la société. Quoique, demandons-nous si une personne a une très mauvaise dentition, une absence de dents, est-ce que ça ne va pas provoquer d'autres problèmes de santé, qui eux sont remboursés. Évidemment, on va faire de grands développements ici, hein, mastication, digestion, problèmes qui vont se reporter chez le spécialiste, et puis après chez le gastro, et puis après peut-être en hôpital. Donc, évidemment, est-ce qu'on y gagne? Est-ce que c'est un bon investissement en termes sanitaires? En termes d'équité maintenant, reprenons la fameuse l'expérimentation qui a été réalisée aux États-Unis dans les années 70-80, bien que là, on peut faire ce genre de choses. On a pris deux grands films, dizaines de milliers de personnes, qu'on a partagé ces personnes en cinq catégories. Dorénavant, vous, plus de remboursement, vous 20%, vous 40%, 60%, 100%. J'ai mis un peu, c'était ça. Donc du jour au lendemain, les gens se trouvent dans un autre système de remboursement, un système d'assurance publique. et on a regardé comment ça a eu lieu. Bon, on le sentait. Comment l'accessibilité financière se ressentait. Vraiment, il n'y a pas photo. Les moins nantis, les plus faibles au niveau de capital de santé, ont vu des problèmes financiers, ont eu des problèmes de santé plus graves. Donc, là, en termes d'équité, il est clair que ce qu'on constate actuellement, c'est que réduire l'accessibilité aux soins de santé et les financiers, ce n'est pas un progrès en termes d'équité. L'adéquation, là, on peut se poser une question. Si vous prenez le concept, on connaît pas mal, je pense, en entreprise, supplier plus demand, demande un but par l'autre. Il est, je pense, c'est assez normal, commerce, quand on vend des produits, l'idée c'est d'induire la demande d'un bien, d'un produit. La publicité est là pour ça. Je pense que si on s'attendait simplement à ce que les gens viennent chercher le produit, si on ne met pas le produit, si on ne vend pas un petit peu, même je parle de l'oralité ici. Un produit, j'en suis fier, c'est un bon produit, je veux le connaître, je veux le vendre. Ben, on induit la demande à l'offre de problème. En termes de soins de santé, c'est certainement plus problématique. J'ai eu l'occasion de faire une revue systématique de littérature, si ça veut dire qu'on parle de 400-500 articles, on en arrive à 30 articles qui sont très bonnes études avec une qualité appraisée de l'étude. Et qu'est-ce qu'on constate? Bien qu'il existe dans le domaine de la santé, un but par l'offre. Pas généralisé, pas chez tout le monde, dans tous les systèmes. Et donc le fait que le médecin, dans certaines circonstances, à bonne ou mauvaise escient, induit son comportement du consommateur, lui dit je repasserai vous voir, vous venez de nous voir, montre à quel point que responsabiliser uniquement le patient pose un problème d'équation. Est-ce que c'est une bonne idée? Si on veut réduire les dépenses, est-ce qu'il faut uniquement le, entre guillemets, le responsabiliser financièrement? Ou ne peut-on pas faire quelque chose chez le médecin? Prenons par exemple le prix de référent tout à l'heure. Il existe actuellement en Belgique des quotas. C'est-à-dire que chaque médecin doit satisfaire un certain quota de médicaments génériques dans sa prescription. Comment ont-ils été calculés? Eh bien, on a regardé à un moment donné quels étaient les quotas par spécialité. Donc, on montait 30% ici, 20% là, 15% ici. Là, il faut que les médecins, tous les médecins, c'était le quota global, tous les médecins arrivent à ce quota-là. Donc on a entériné ce qui se passait déjà. Et ceux qui n'y arriveraient pas, et ce n'est pas le cas forcément, ceux qui n'y arriveraient pas, ben on dit, on leur écrira une lettre, on leur dira que c'est pas bien, il faudrait... Mais il n'y a rien derrière. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut appliquer aux médecins ce que je dénonce pour le patient. Mais en même temps, soyons cohérents. Alors pourquoi ne le fait-on pas? Est-ce qu'il y aurait une force lobbying plus importante, dans la question que je réponds évidemment, dans le côté médical et pas du côté des patients? Peut-être. Quid des gestionnaires, hôpitaux? Quand vous parlez avec un directeur d'hôpital, d'une part, et un directeur médical d'autre part, ben, souvent on se rend compte que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et que malheureusement, il y a une sorte de contagion de l'objectif de gestion pure vers l'objectif médical. Et donc, l'activité médicale étant dépendante au moins partiellement, mais je pèse le mot, je suis extrêmement prudent, d'objectifs purement budgétaires. On connaît, il faut faire tourner la machine pour la rentabiliser, pour rentabiliser l'investissement. Pas généraliser, pas tomber dans la caricature, mais même si on prend cela de manière extrêmement prudente, il y a matière à la question, savoir. Est-ce que si on rend comptable le patient ses dépenses de santé, est-ce qu'il n'y a pas des raisons de rendre comptable également le prestataire et le gestionnaire? Au moins poser la question. Voilà, ça c'était la première partie avec un peu de constat, quelques chiffres, j'espère que je n'ai pas trop assommé jusqu'à présent, et avec au moins matière à réflexion. Là, au moins, même si on était convaincu, si vous étiez convaincu, il y a une demi-heure que payer plus cher permet de dépenser moins, il y a quand même de quoi au moins susciter chez vous un petit peu de questionnement. Alors, non, avançons un petit peu dans la théorie philosophique et demandons-nous, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas, en dehors de ce paradigme néoclassique qui est utilisé, vanté par la
plupart des penseurs et intellectuels, qu'il l'a été en tout cas, qui était vraiment le mainstream, hein, est-ce qu'il n'y a pas maintenant de plus de nouveau, un vent nouveau qui est prometteur? Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais j'ai étudié la littérature la plus pertinente dans le domaine, en voyant des auteurs comme Dworkin, qui est un juriste américain. C'est le premier qui a explicitement mis en évidence dans sa pensée, dans ses textes, la responsabilité individuelle, de manière explicite. C'est le premier, et à mon sens, peut-être le seul des grands penseurs qui était aussi explicite. Je ne le suis pas toujours dans sa démarche, elle est extrêmement compliquée. Hein. Il imagine un système d'enchères et d'assurances, un système fiscal et social, quatre caractéristiques, extrêmement compliquées, mais qui flatte l'esprit. C'est un très beau modèle, mais tout à fait inapplicable. Mais c'est pas parce que c'est pas applicable que ce n'est pas intéressant. La démarche est intéressante et ça pose des bonnes questions. Donc si vous avez l'occasion de l'entendre, c'est vrai que c'est une personnalité intellectuelle très très importante et intéressante. Ronald Dworkin, c'est D-W-O-R-K-I-N. Donc il y a lui, il y a John Römer, extrêmement connu également, économiste, lui. Il y a Arneson, j'ai vu également Cohen, qui vient de décéder avec moi. Donc des penseurs vraiment très influents, qui sont à la limite entre l'économie et la philosophie, généralement, ou parfois un peu le droit comme Dworkin, mais généralement limite entre économie et philosophie. Amartya Sen, je ne me présente plus, qui vient de sortir un dernier bouquin d'ailleurs sur la justice. De sortir, et qui a préfacé le bouquin de Kurevski, d'ailleurs. Nussbaum, Martha Nussbaum, une féministe américaine qui travaille sur le même concept que Marcia Sen, sur la capacité. Elizabeth Anderson, qui est moins connue, mais qui apporte, je trouve, une pierre d'édifice extrêmement intéressante avec le concept de réelle démocratie et de dignité humaine. Extrêmement, elle a écrit un seul papier très très important, je peux vous donner les références, et qui est vraiment, je trouve, fondamental. Anderson, Elizabeth Anderson, féministe américaine, et qui est vraiment quelqu'un de... Moi, je trouve ça vraiment prodigieux comme papier. Elle n'a pas écrit beaucoup de choses, mais ce qu'elle a écrit est vraiment très percutant. Et alors, naturellement, j'ai été aussi influencé par mes lectures d'Ivan Illich, plus ancien, vraiment. C'est pas un post-welfériste, puisque lui a publié, principalement dans les années 70, vu très radicalement différent de ce que la société était à ce moment-là, avec un homme extrêmement visionnaire. Et quand on relit maintenant, par exemple, la Némésis médicale, qu'il a reformulé quelques années plus tard, eh bien, les problèmes sont les mêmes maintenant. Et on aurait pu penser qu'il s'était trompé et que 30 ans plus tard, tout cela pourrait être revu complètement. Non. On pourrait relire Némésis médicale maintenant en faisant finalement rien à changer. Donc, de manière générale, voilà ce que j'ai été voir. Tous ces auteurs, et je pense avoir lu pratiquement l'ensemble de leur œuvre, en me demandant chaque fois comment voient-ils la responsabilité individuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter dans ma réflexion sur les soins de santé, et qu'est-ce que ça peut me permettre de dire de neuf par rapport au constat que je faisais. Et vous me trouverez peut-être très prétentieux, mais c'est décevant. Pas pour Sen, Nussbaum, Anderson. Tous ces gens, j'oublie Rawls, honte sur moi. J'ai également John Rawls, théorie de la justice, 1971, qui a reformulé cette théorie de la justice plus tard, pour tenir compte, de manière très honnête d'ailleurs, de toutes les remarques qui avaient été formulées à l'égard de son bouquin, mais qui est le penseur du siècle, faut bien l'avouer. Mais à nouveau, quand vous voyez par exemple comment se positionne Amartya Sen, qui dédie son dernier bouquin à John Rawls, c'est tout à fait en opposition à John Rawls. Donc, en toute humilité, malgré tout, j'ai trouvé ça décevant. Pourquoi ? Décevant parce que, d'abord, à part Dworkin, qui s'exprime de manière claire, mais dans un mécanisme extrêmement compliqué, peu de penseurs nous disent réellement ce qu'est la responsabilité, et nous disent des choses qui peuvent nous servir dans tous les jours. En tout cas, je ne me retrouvais pas. Je ne voyais pas vraiment comment je pouvais m'en servir. On retrouve chez eux quelque chose qui est permanent, qui est l'idée que, qui est juste, hein, qu'on doit tenir compte des circonstances. Quand je vous ai donné le contexte du transfert de responsabilité, qu'est-ce que j'ai tenté de faire? J'ai tenté de mettre en évidence les circonstances de vie des gens, les statuts socio-économiques, tout ce que ça représente. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, voilà, on peut être juste, on peut être égalitaire. J'ai dit un jour dans une conférence, j'ai parlé d'égalitarisme, enfin, j'ai parlé d'équité, en définissant l'équité comme étant l'égal traitement des égaux. Et quelqu'un qui visiblement ne connaissait pas grand-chose à la philosophie, à l'équité, me dit, enfin, l'égalité, c'est vieux plusieurs siècles, personne n'y croit. Non. Traitement égal des égaux. Et c'est ça. Et ça nous dit, hein, equality of what? L'égalité de quoi? L'égalité des égaux en quoi? En toute chose, ça c'est impossible évidemment. Nous sommes tous différents, donc dire qu'on va arriver à un résultat où nous serons tous égaux pour tous nos paramètres, c'est impossible. Sauf si nous donnons des clones. C'est pas le cas. Donc, je vais demander qu'est-ce que ça m'apporte, et je vois chaque fois l'importance des circonstances. Et chacun de ces penseurs dit, eh bien, si on prend des gens qui ont les mêmes circonstances de vie, on doit faire en sorte qu'ils aient soit les mêmes dotations de départ, ou les mêmes accomplissements, une sorte de continuum entre deux grands courants, les ressourcistes, donc qui s'intéressent aux ressources, donc on va compenser les gens au départ de la vie, les mettre, si vous voulez, sur une ligne de départ, tous sur la même ligne de départ, ligne des ressources. Et d'autres qui sont à l'extrême, continuum, qui s'adressent aux accomplissements, au bien-être réel. Peu importe les dotations, il faut faire en sorte que les gens puissent avoir le même type de bien-être. Et entre les deux, vous avez des gens qui mélangent un petit peu, qui agissent un peu. Et donc, l'État, dans ce domaine-là, vraiment tous les grands penseurs, qui s'intéressent à la justice redistributive dans le mouvement post-welfariste, c'est récent, s'intéressent à la façon dont l'État doit intervenir. Il y a bien quelqu'un qui doit intervenir. Il y a quelqu'un qui doit, en tout cas, une espèce de commissaire-priseur qui est là et qui redistribue les choses entre ceux qui vont payer des impôts et qui vont devoir redistribuer aux autres. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je ne me suis pas intéressé naturellement à la littérature comme celle de Robert Nozick, hein, qui est un libertarien et pour lequel naturellement toute intervention extérieure est bridée. Hein, les libertariens préconisent uniquement l'intervention de l'État dans deux domaines, c'est la police et la justice. Le reste, c'est chacun tire son plan. Donc ça, autrement, je l'ai mis de côté. C'est un choix, vous direz, ben, c'est un choix peut-être biaisé, c'est un choix philosophique de l'époque. Donc, je ne suis pas satisfait de cette lecture. Avec tout le respect que j'ai pour les penseurs, ce sont des gens, quand je lis leur papier, je me dis, jamais je ne serai capable de lire ce qu'ils écrivent. La façon dont ils écrivent, c'est prodigieux. Mais en tant qu'être humain, je me dis, and so what? Qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi ça me sert vraiment? Et qui est capable d'implémenter ça? Et puis alors, tout simplement, la réflexion humaniste. Vous savez, dire, ben celui-là, parce que même Sen, hein, c'est pas. Sen le dit très peu, pourtant il écrit beaucoup. Mais il y a très peu d'endroits où vous verrez que Sen s'exprime de manière explicite sur la responsabilité. Il dit vraiment, il dit à un moment donné. Ben, ceux qui seront dans des circonstances où on a tout fait pour qu'ils soient sur la même ligne de départ des autres, qu'ils ont les mêmes capacités, je vais y arriver, eh bien, et qu'on voit qu'ils ont un résultat qui est moins bon que les autres, ben bon, on faut bien avouer qu'ils y sont pour quelque chose. Donc, pourtant, Sen, c'est quand même quelqu'un qui se dégage pas mal du welfare. Mais si on prend l'argument tout simplement humaniste, et ça, c'est l'argument de Thurston, ce qui me plaît beaucoup. Même Nussbaum, finalement, quand vous avez quelqu'un qui souffre, posez la question de savoir, mais est-ce qu'il a bien fait ce sport? Est-ce qu'il n'a pas trop fumé? Est-ce qu'il n'a pas trop bu? Il est là, hein? Il est en chimio, et on se demande s'il va payer lui-même sa chimio ou pas, il est en train de souffrir, d'avoir la nausée, de perdre ses cheveux, il est malade. Est-ce que ça a du sens? Je prends l'exemple vraiment dur. Mais, vous savez, le continuum, on peut aller très loin. Si je prends un exemple trop simple, avec l'arrachage d'une dent, on dirait, bon, enfin, c'est quand même pas si grave. Hein? si on ne l'endort pas, si on ne paye pas la sédation. Donc, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais l'argument humaniste, qu'est-ce que je fais devant ce cas? Ce cas qui n'est pas un cas unique, nous sommes tous, nous avons, sommes, nous serons tous confrontés à la souffrance, physique, psychique, personnelle, ou celle de nos proches. Donc, tout ce beau raisonnement sur la façon précise de rendre les gens responsables, Römer par exemple, Römer, c'est exceptionnel, ce qu'il fait c'est vraiment Römer, John Römer, R-H-O-E-M-E-R, John Römer. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Equality of Opportunity ». Un peu technique. En gros, il dit cela. Je n'ai pas toujours prévu de parler de ça. Enfin, bon, je pense que ça vaut la peine. Il est possible, dans une population, de faire des groupes d'individus. De regrouper les individus par catégories. Ces catégories, ce sont les circonstances des gens. Voilà. Il y a des gens qui se ressemblent, qui ont le même type d'éducation, le même milieu social. Et donc, il y a moyen de faire des groupes homogènes. Il émet l'hypothèse que c'est possible. Il émet l'hypothèse qu'il n'y en aura pas trop. Je pense que, en fait, il faudrait un groupe par individu. Mais bon, soit. Imaginons que l'on puisse regrouper. Hypothèse de base. Et imaginons également que l'on puisse mesurer le niveau d'effort de chacun dans un domaine particulier. Il s'est intéressé d'abord à l'enseignement. Il a écrit un papier aussi sur le mort du cancer. Et donc, moi, j'ai transposé sa réflexion de l'enseignement vers les soins de santé. Et imaginons que l'on puisse mesurer. Je sais que c'est difficile à entendre, qu'on vient. Faites l'effort d'imaginer que c'est possible, pour aller jusqu'au bout de l'explication. On peut mesurer le niveau d'effort au sein de chaque catégorie. On peut, au sein de chaque catégorie, donc, établir une fonction de distribution de l'effort. Remarquez, voilà, j'ai un groupe d'individus, j'ai 150 000 personnes, la classe la plus défavorisée, qui vit dans le domaine rural, principalement fermier aux États-Unis, c'est un truc bien homogène, plus homogène possible. On peut mesurer leur effort entre 1 et 10 par rapport à fumer ou pas fumer. Et imaginons que l'on dit cet effort, il est traduit par le nombre de cigarettes fumées par jour. Vous voyez, on pourrait y arriver si on veut. Hein, c'est un petit effort, c'est bien de mieux. Fonction de distribution des efforts. Fonction de distribution veut dire que l'on peut déterminer un minimum, un maximum, une moyenne, une médiane. La médiane, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui coupe la distribution en deux parties égales. La médiane, vous avez 50% qui fait moins bien, 50% qui fait mieux. Voilà. Si on fait ça pour chacun de ces groupes, dit, ce qui ne peut pas compter, ce n'est pas le niveau de l'effort, mais le degré d'effort. Et donc, dit-il, l'État devrait intervenir dans l'enseignement, aussi dans les soins de santé, de la même manière, pour la personne qui est médiane dans le premier groupe, médiane dans le second groupe, médiane dans le énième. Ça semble... Oui, ça tient la route. Pourquoi? Il utilise ce qu'il appelle une hypothèse de charité. Il dit, il n'y a pas de raison d'attendre quelque chose de quelqu'un qui est plus important de ce que l'on peut réellement attendre. Si la médiane... Si l'effort en termes de nombre de cigarettes fumées, par exemple, du premier groupe, c'est 15, et que la médiane dans le groupe supérieur, c'est 3, demander, exiger d'une personne appartenant au premier groupe d'arriver à fumer 3 cigarettes, ça n'a pas de sens, puisque son environnement est tel que personne ne se comporte comme ça. Même le plus bas, même le minimum de la courbe n'est pas là. Hypothèse de charité. Donc, oui, il y a un réel effort de tenir compte des circonstances. On va très très loin. Donc, l'idée, donc dans cette penseur, l'idée est intéressante. Mais comment implémenter tout cela? Alors, je vous passe, et ça, j'ai des textes là-dessus, sur tous les problèmes, non seulement techniques et philosophiques, derrière tout ça. Comment peut-on évoluer par la suite? Quelle est la dynamique de ce classement? Est-ce que l'on peut, est-ce qu'il faut faire un moment dans la vie, ce qui est maintenant toute la vie, déterminé par cela, ou est-ce qu'on peut changer de groupe? Et si on change de groupe, et qu'on se retrouve moins bien classé dans le groupe suivant que dans le premier, est-ce qu'on est pénalisé alors que finalement on s'est mieux comporté? Un étudiant qui se retrouve à Harvard, qui vient de sa campagne où on fumait, où on buvait, finalement rencontre des gens différents, bon, ça fait du sport, ne fume plus, ne boit plus, ah, c'est beaucoup mieux, enfin, selon une certaine façon de voir un peu hygiéniste des choses, mais malgré tout il n'arrivera pas au même niveau
que les autres qui étaient dedans, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les moins bien, donc ils touchent moins. Une bourse moins importante, ou moins de remboursement de santé. Et donc, vraiment très intéressant tout ça. Très intéressant, mais in fine, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut appliquer? Est-ce que si demain je vais frapper chez le Premier ministre, imaginons qu'on en est encore un, ou la ministre des Affaires sociales, et écoutez, moi je donne un bon système, on va être équitable, efficace tout à la fois. Et voilà. J'ai lu John Romer. Je l'ai réécrit en français pour les soins de santé. Bien gentil, merci d'être venu. On vous écrira. Hein. Donc, et puis l'argument analyste. Là, c'est l'argument le plus fort. On peut être extrêmement libertarien, néolibéral, à 100%. Mais moi, à ce moment-là, d'abord, je respecte toutes les opinions. Et je pourrais dire, écoutez, moi, mon argument, c'est l'argument analyste. Je ne peux pas laisser souffrir quelqu'un qui souffre. Je ne veux pas savoir. Mais l'argument humaniste, c'est justement cette empathie que l'on a à l'égard de l'autre. Mais je vais en parler après. Parce que, oui, je préfère en parler après, parce que je vais y venir de manière un peu plus détaillée. Voilà. Alors maintenant, on entre dans. D'ailleurs, j'ai déjà. L'avantage, le temps passe, mais j'ai déjà anticipé sur le reste des transparents. Finalement, ils sont là, peut-être plus, forcément plus pour vous que pour moi, et seulement pour vous, pas pour moi. C'est d'ailleurs, c'est la base de la pédagogie. Hein. Alors, malgré tout, donc j'ai cité ces auteurs. Donc vous voyez d'où vient mon inspiration. De noms importants, Sen, Nussbaum, Anderson, Illich. Je n'ai rien inventé. J'ai été nourri par ces lectures. Et j'ai un effet de penser que j'ai un petit peu d'originalité en utilisant ces concepts et ces pensées pour en faire une chose qui m'est personnelle. Mais forcément qu'il faut se calmer. Ce que j'ai aussi été pas mal influencé par la lecture de philosophes antiques. Et on a dit ça, sans doute, évidemment, Platon, Socrate, et le fameux connais-toi toi-même et souci de soi. On connaît moins le souci de soi que le connais-toi toi-même. Mais si vous lisez par exemple Foucault, il a beaucoup travaillé sur le souci de soi, et il a bien montré, sans partager toutes les idées de Foucault, mais il a très bien montré de manière tout à fait lumineuse à quel point on avait perverti le concept. Le souci de soi est maintenant souvent considéré comme quelque chose d'un peu, je dirais, narcissique, égoïste, égocentrique, soucie-toi de toi, prends soin de toi, on pense directement aux soins, mesdames, ta façon, soin de beauté, sculpter de son corps, sculpture de soi. C'était pas ça. Le souci de soi antique, c'est pas du tout ça. Quand Socrate, dans l'Alcibiade, dit à Alcibiade, tu voudrais diriger la cité, tu ne te soucies même pas de toi. Et je dis pas, d'abord présente-toi des bons pectoraux, hein, la barre de chocolat, je crois qu'à ce temps-là, il n'y a pas encore de barre de chocolat, et puis tu pourras parler. Bon, vois un peu au fond de toi-même qui tu es, qu'est-ce que tu veux, avant d'espérer pouvoir mener la cité. Ça, c'est les platoniciens, et les platoniciens ont le même mouvement de pensée. Mais on retrouve ça chez les épicuriens, chez les stoïciens. Donc, même l'épicurisme, quand on dit souvent à tort, je suis épicurien, je veux bien manger. Si on connaît l'épicurisme, on ne dit pas du tout ça. Hein. Donc, moi, je reviens plutôt au souci de soi antique, réel. Donc, une autre source d'inspiration, très très loin, et qui nous amène à la pratique de soi. Donc, les quatre auteurs que j'ai cités, la pratique de soi, souci de soi, qui m'amène à développer, et c'est là que ça devient extrêmement personnel ou discutable, à discuter avec vous tout à l'heure, dans quelques minutes, trouver, retrouver, recréer ce qu'on appelle la liberté ontologique, fondamentale, réelle. Et là, je suis vraiment au balbutiement de ma pensée. J'ai l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai, les réflexions que j'ai. Je sais pas. Ce que je constate souvent, en tout cas, c'est que lorsque je me crois libre, que je suis peut-être le moins libre. Ça, j'en ai la conviction. Mais en même temps, je ne crois pas à un déterminisme total. Il existe, j'ai montré, des déterminants de la santé. Il y a des déterminants sociaux, indiscutablement. Mais faut-il pour cela, ça vous est vaincu de dire, bon, rien à faire.
On est né là, on ne pourra rien faire d'autre. On a des tas d'exemples de gens qui en sortent, mais je ne parle pas uniquement d'une sortie par l'ascenseur social, comme Bourdieu. C'est pas ça. Une sortie personnelle, individuelle. Quel que soit le milieu dans lequel on est né, dans lequel on a évolué, on peut très bien avoir cette liberté ontologique extrêmement enfouie au fond de soi. Et peut-être même que l'existence, la pléthore parfois de biens matériels, de capacités financières, nous empêche de retrouver en nous justement l'élément de liberté authentique. Et donc je ne sais pas s'il faut utiliser le terme « retrouver » ou « trouver ». A-t-on jamais, dans l'histoire de l'humanité, réellement trouvé cette liberté fondamentale? Je n'en sais rien, je n'ai pas actuellement encore trouvé d'écrit. Quand je vois les questions que se posaient les philosophes anciens, ils cherchaient la même chose finalement. Mais il me semble que notre vie actuelle, extrêmement bruyante, dense, en activité de toutes sortes, nous empêche peut-être, je suis extrêmement prudent, en tout cas m'empêche moi de trouver exactement où est cette liberté, en quoi elle consiste. Et je me dis, je ne suis pas tellement différent des autres, peut-être que chez les autres c'est la même chose. Peut-être que c'est le même problème. Dès lors que la question apparaît, et elle apparaît souvent à un certain âge, qu'est-ce que je décide? De quoi suis-je libre? De quoi suis-je vraiment responsable? Parce que la responsabilité est consubstantielle à la liberté. Sen le dit aussi. Il n'y a pas de responsabilité possible sans liberté. Sans liberté, on ne peut pas penser responsabilité. D'où, lien avec mon développement précédent, quand on dit, on écrit que l'on responsabilise notamment le patient ou le chômeur, est-on face à des personnes libres? Totalement utopiste. Mais sont-elles suffisamment, d'autres termes, est-ce que la liberté est proportionnelle, plutôt la responsabilité est-elle proportionnelle à la liberté? Dans Kurilski, je vous conseille, c'est un petit livre très facile à lire et qui fait même pas 200 pages, hein, Kurilski qui finalement dit ceci, hein, en gros, maintenant quand je vous aurai dit ce qu'il dit, peut-être que vous n'aurez pas envie de le lire, mais il dit simplement, oui, parce que sa thèse est assez simple, il dit la générosité c'est bien, mais c'est pas ce qui doit faire vivre le monde, la société, c'est pas ce qui doit vraiment gérer les rapports interhumains, internationaux. Ce qu'il faut, c'est l'altruisme. Et il avoue qu'il a trouvé, je pense, 18 définitions d'altruisme. Sa définition, c'est que l'altruiste, il va se sentir, c'est un devoir, il va sentir le devoir en lui de donner de manière proportionnelle à sa liberté. Au plus je suis libre, notamment aussi en matière financière, pour un pays, pour l'être humain, parce qu'il extrapole sa pensée individuelle à une pensée collective, au plus je suis libre, au plus j'ai le devoir d'être altruiste, de donner. La générosité, dit-il, c'est pas un devoir. On peut être généreux ou pas, il prend des exemples, des gens sont généreux, mais s'ils n'avaient pas été, si Bill Gates n'avait pas donné son argent pour les vaccins en Afrique, s'il avait donné à l'art, pu avoir de plus beaux musées encore, mais on n'aurait pas évité les dizaines de milliers de personnes décédées par manque de vaccins de base. Donc, l'altruisme, lui, le définit comme d'obligatoire, un devoir qui est proportionnel à notre liberté. Donc, vous voyez, à nouveau, revient ce concept de liberté qui est extrêmement important. Et alors, pour terminer de brosser les concepts, j'arrive au concept de capacité. C'est un néologisme, évidemment, mais c'est pas tout à fait la même chose que capacité. Et donc, c'est pour ça que volontairement, vous lirez même en français, donc capabilities en anglais, c'est capabilité en français, en sachant que le terme n'existe pas, mais c'est important de reprendre ce terme-là. Donc, pour faire simple, Sen nous dira, eh bien, les capabilités, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, Sen, c'est une origine indienne, il vient d'Inde, il vit maintenant aux États-Unis. Et il a été confronté, pas tout à fait directement, en tout cas comme spectateur, il avait la chance d'être dans un milieu relativement aisé, à la famine en Inde. Et donc il s'est posé des questions sur les raisons de la famine. Il s'est rendu compte que finalement, le problème essentiel, c'est un problème de démocratie, de liberté des gens. Donc ça a influencé sa pensée. Et toujours dans ces textes, on retrouve cette filière et le fait qu'il ne vient pas de n'importe où. Ça inspire toute sa pensée. Et donc, Sen dira, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas simplement les ressources, parce que les ressources, vous voyez, on vous donne de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Imaginez, vous êtes au milieu du désert, vous avez de l'argent plein les poches, vous pourriez vous acheter tout l'étalage d'un marchand de fruits et légumes, mais s'il n'y a pas de marchand de fruits et légumes, votre liberté est égale à zéro. Donc il dit qu'il faut une capacité, c'est-à-dire un ensemble de fonctionnements. Les fonctionnements sont les beings, les doings, c'est ce qu'on peut faire et être, mais réel. Qu'est-ce que je peux réellement faire? Et il dira la capacité de quelqu'un, c'est pas seulement ce qu'il va faire et être, mais c'est l'ensemble des choix possibles. Et il dira, eh bien, il est préférable d'avoir un panel de choix importants dont on va tirer un seul. On va vraiment choisir pour le faire. J'ai différentes possibilités, je suis ce que je suis, l'argent que j'ai le sexe que j'ai l'âge que j'ai. J'ai un panel de choix devant moi, puis j'en choisis un, parce qu'on n'a qu'une vie. On peut changer de choix par la suite, mais à un moment donné, au moment T, je choisis quelque chose. Ce qui est important, c'est d'avoir le choix. Hein, il prend le fameux exemple de la personne qui jeûne parce que pour des raisons religieuses, celui qui jeûne parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas à manger, parce qu'il n'a pas d'argent. Le premier, il a fait le choix de jeûner, il aurait pu ne pas jeûner. L'autre, moi, il n'avait pas le choix. Donc, s'intéresser seulement à ce qui se passe, pas suffisant. Et s'intéresser seulement aux ressources, et c'est là qu'il se pose à John Rawls. John Rawls, c'est son système de biens premiers. Il dit qu'il faut un système qui permet de répartir les biens premiers entre les gens de manière égalitaire. Et puis alors après, tout le monde tire son plan, de quoi sorte. Bon, c'est ça. Qu'est-ce que les gens peuvent réellement faire? Réellement. Il appelle ça aussi l'épaisseur de la liberté. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La capacité, c'est l'épaisseur de la liberté. C'est ce qu'il appelle également la liberté de bien-être. C'est-à-dire la liberté que j'ai de réaliser un certain bien-être. Donc, de consommer, de pratiquer, de faire des choses qui m'apportent du bien-être. Et, dans sa définition de la liberté, il dira également qu'il existe un autre type de liberté qui est ce qu'il appelle la liberté d'agent. Là, c'est extrêmement important parce que, même si je me réfère aux capacités que Sen associe à la liberté de bien-être, je vais personnellement préférer son concept de liberté d'agent. De quoi s'agit-il? Bien, la liberté d'agent, elle est plus extensive que la liberté de bien-être. Elle comprend la liberté de bien-être. Elle comprend ce que les gens peuvent faire, réaliser, consommer, acheter, être. Mais en plus, une dimension supplémentaire, c'est que c'est la liberté aussi d'être impliqué, de faire des choses que l'on valorise. Exemple, je souhaite que mon pays soit un pays démocratique où existe une certaine solidarité, mais le fait de pouvoir participer au système démocratique, d'aller voter, d'avoir son mot à dire dans des groupes de consensus, des groupes de travail, de dire voilà, je veux faire entendre ma voix, pas seulement mettre un point quelque part, mais pouvoir exprimer les arguments, je valorise cela. Et c'est plus une idée, si vous voulez, de valeur. Ça ne me sert pas directement. À la rigueur, je pourrais être quelqu'un autosuffisant, une grande fortune, mais être soucieux que chacun puisse avoir un minimum de ressources. Et donc, le fait de pouvoir entrer dans ce processus fait partie de la liberté d'agent. Et c'est cette liberté-là qui, moi, m'intéresse. Pourquoi? Parce que ma procédure de responsabilisation, elle ne se braque pas sur l'individu. Une fois que l'individu pourra l'atteindre, elle va exploser dans le collectif. Elle va amener l'individu, responsable individuellement, à aussi s'impliquer au niveau collectif, à souhaiter faire partie, au sens de la reine, de manière active, à une solidarité, à une responsabilité collective. Donc ce n'est pas seulement une démarche de dire « voilà, j'arrive à un individu responsable pour lui-même », il y a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Peut-être, je n'en suis pas certain, peut-être. C'est... Oui, amen. J'espère que ce n'est pas un défaut. Alors, passons au cas concret. Maintenant, il y a deux cas concrets. Est-ce que tu veux que je passe en brique maintenant?
Tu as combien?
On va dire 10-15 minutes. Oui. Je vais essayer de devenir passionnant. Alors, deux portes d'entrée. Une que je connais quand même pas mal, les soins de santé, et l'autre, l'entreprise, que je ne connais pas bien, comme tout le monde, en tout cas. Et là, on pourra en discuter. Qui participent toutes les deux, je dirais, de la même démarche, c'est celle de ce qu'on appelle le CARE. Parce que vous êtes familier de ce concept-là. Le CARE, c'est pas simplement soigner au sens physique, hein, c'est pas simplement l'infirmière qui soigne la personne. Le CARE, c'est toute démarche, définition un peu personnelle, toute démarche qui vise à, par un sentiment d'empathie vers l'autre, à faire les choses pour l'autre, à l'aider, à le comprendre, à l'écouter, à prendre soin de lui au sens extrêmement large du terme, prendre soin de lui au niveau physique, au niveau psychique. Donc c'est extrêmement large le CARE, extrêmement large. Il y a pas mal de littérature sur le CARE qui est très intéressante et qui est souvent une littérature aussi féministe. Parce que souvent, de manière plus ou moins implicite ou explicite, la femme est celle qui soigne au sens large du terme, hein, qui prépare les repas, qui les conçoit, qui s'arrange pour que les enfants qui partent à l'école et peut-être que de temps en temps il faut mettre un peu la main à la pâte à Laurent, hein, mais puis le monde évolue, mais j'explique simplement pourquoi il y a eu un mouvement féministe dans ce domaine-là. C'est une littérature intéressante et abondante. Alors pourquoi est-ce que je pense que la santé est une bonne porte d'entrée? Parce que de manière assez évidente, tout se concerne. Même si on est en bonne santé, personne n'est assez obtus pour dire « moi je suis en bonne santé jusqu'à la fin de ma vie et je mourrai en bonne santé ». Donc c'est un bien extrêmement transversal. Et les soins de santé, personne je pense, on est maintenant de plus en plus à l'hôpital, donc même le premier jour, puisqu'on médicalise aussi pas mal l'accouchement, qui est un acte naturel, mais on le médicalise quand même pas mal, et quand on tente de ne pas médicaliser, on dit attention, on prend les risques, hein, donc c'est bien la preuve que les soins de santé nous concernent tous, du début à la fin de la vie. Comme on décède de plus en plus aussi à l'hôpital, mais vous voyez, je pense que je ne dois pas aller plus loin pour bien montrer que la santé, c'est vraiment une porte d'entrée idéale si on veut toucher tout le monde. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a le souci de soi que l'on voudrait développer chez chacun pour amener à la liberté ontologique. Je me dis, je me vois mal, moi, me balader comme Socrate, pieds nus, et dire aux gens, soucie-toi de toi. Je vais le faire, mais je ne pense pas que je foutrai beaucoup de monde, et je ne suis pas certain que je laissera marcher très longtemps dans la rue. Je me dis que ce serait bien qu'il y ait plein de Socrates, hein, que nous soyons tous un peu des Socrates, en qui disions aux autres, voilà, tout ce qui se passe de toi, et l'homme par rapport à sa femme, l'homme par rapport à son mari, les parents par rapport aux enfants, c'est tout à fait positif. Mais je ne suis pas totalement naïf, malgré mon jeune âge. Dit, ça ne va pas se faire automatiquement. La liberté ontologique, je ne la vois pas se développer de manière automatique, c'est pas spontané. Il faut que quelqu'un s'y mette, il faut que quelqu'un l'initie. Et je me suis demandé dans quelle mesure le soignant, au sens large du terme, et notamment le soignant dans les soins de santé, ne pourrait pas être une bonne porte d'entrée. Ça veut dire que les personnes qu'il faudrait sensibiliser à cette démarche, à cette pensée, dans le cursus notamment universitaire, pour les médecins, ou les infirmières, les kinés, tout le corps soignant, qu'il faudrait entretenir, évidemment, pas seulement faire un cours de 30 heures et dire, ou de 15 heures, ou de 7h30 en disant, bon, on l'a bien dans le programme, maintenant on est safe, hein, non, vraiment quelque chose de consistant. Chaque année, on tape sur le même clou, et puis après, la formation continue, avec des points d'accréditation, parce qu'il y en a que maintenant, pour économie et éthique. Bien, on mettrait, je prends l'accréditation pour le CARE. Hein. Pourquoi pas? Alors, ils sont bien placés puisqu'ils sont en permanence face à des patients. C'est des gens qui sont en souffrance et qui sont, il faut quand même l'avouer, et je fais référence ici à votre expérience personnelle, souvent, quand on entre dans le milieu médical, on se sent quand même un peu, c'est un euphémisme, infantilisé. si on souffre vraiment, si on nous sommes inquiets par rapport à sa santé, on a très vite le sentiment qu'on est un peu ballotté comme ça, on est un numéro et qu'on espère que ce qu'on nous fait sera bien fait, que c'était utile de le faire, on est en attente du diagnostic. Le patient qu'on voudrait assertif, autonome, le patient à la Illich, on en est loin. J'ai fait une expérience récemment, sans grande importance. Je me suis dit, mince, quoi. C'est ce genre de choses qui nous nourrissent, évidemment. Mince. Je suis ici sur cette table, là, on va me faire ça, j'espère qu'ils vont bien le faire, qu'ils ne vont pas se gourer, ce ne sera pas trop douloureux, et que... On apporte toute une réflexion. Et voilà, je fais de la réflexion là-dessus, je suis dit, plus en mieux, depuis que j'arrive là, rien. Je suis comme tout le monde. Heureusement, on y arrive. Hein. Mais quand même, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Il faut à ce moment-là, et à ce moment-là, expérience à nouveau, je suis tombé sur un médecin qui avait, je crois, ce souci. Peut-être pas de manière explicite ou volontaire, mais qui avait le souci d'expliquer, de prendre en considération une angoisse, une anxiété qui n'était peut-être pas tout à fait visible, parce que je ne voulais pas visible, mais qui était sans doute, hein, et qui a fait ça, qui a vraiment qui a pris le temps de pratiquer du care. Et je me dis, si on peut tomber sur un corps médical qui fait cela, alors on change beaucoup de choses. Mais bon, il ne s'agit pas simplement de se sentir mieux, c'est-à-dire plus à l'aise. Je pense, c'est une conception philosophique qui est en bouillonnement, hein. Je pense que en passant par la vulnérabilité, c'est-à-dire le soignant qui amène le patient à aller au fond de lui. Dire voilà pourquoi vous êtes là, voilà de quoi vous souffrez, ou voilà ce que je vais essayer de faire, de chercher, de trouver ou pas. Expliquer, faire prendre conscience au patient, voilà, quelle est ma vulnérabilité que nous partageons tous, mais que nous partageons tous. Alors certains diront ce moment-là, mais si on se sent très vulnérable, on ne peut plus être libre, on ne peut plus être responsable. Mais je pense justement à l'inverse. Pourquoi ? Parce que on prend conscience du fait qu'on est tous vulnérables. Et qu'il y a, face aux soins de santé, ce qu'il m'arrive, moi, peut arriver à n'importe qui. Est arrivé à n'importe qui, arrivera à d'autres. Et donc, on partage cette humanité, cette vulnérabilité. Et j'ai, en quelque sorte, une sorte d'empathie à l'égard de moi-même. Oui, je suis vulnérable. Mais cette vulnérabilité doit me permettre de me dire, mais qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Comment suis-je disposé maintenant à la vivre, à l'accepter. Je prends l'exemple que j'ai vécu. C'est pas grand chose, une gastroscopie, c'est rien du tout. Et on pouvait être un peu endormi ou pas. Je me suis dit, mais je vais pas l'être. J'ai envie de savoir comment ça se passe si on ne l'est pas. C'est pas très clair. Mais en même temps, prise de conscience d'une vulnérabilité, mais fondamentale. Voilà. C'est pas agréable, c'est embêtant, on sent que ça bouge. J'ai eu l'impression à ce moment-là d'une grande liberté. D'avoir dit, c'est moi qui ai décidé jusqu'où j'allais aller, jusqu'où je voulais ressentir la chose. Et j'ai lu, je travaille actuellement avec un anthropologue qui a fait des interviews de personnes souffrant d'un cancer en phase terminale, et qui a pu voir que lorsque l'on dit à des personnes qui sont en phase terminale, voilà où on en est, à ce moment-là, ça passe quelque chose de fondamental chez elles. Elles se disent, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'entre dans le système médical ? Est-ce que j'y reste pendant quelques mois ? Ou est-ce que finalement, conscient, tout à fait conscient, je suis totalement vulnérable ? Puisque la proximité de la mort, c'est la traduction paroxystique de la vulnérabilité. Si je décide autre chose, je décide un autre parcours. Et il montre bien dans ses entretiens qu'à ce moment-là, c'est un moment vraiment fondamental. Où la personne va dire, non, je me dégage de cela. Je veux vivre mes derniers jours le mieux possible. Je ne veux pas subir ces choses qui seront difficiles à vivre, pesantes, je ne verrai plus mes enfants, ma famille, je veux encore les voir. Je sais que ça va peut-être raccourcir ma vie de quelques semaines, quelques mois, mais peu importe. Et là, vous voyez, dans ces entretiens, transparaît vraiment le côté un peu paternaliste, autoritaire, infantilisant du monde médical actuel. Ou lorsque l'on demande de sortir du système, eh bien la réaction est souvent négative. C'est, vous ne faites pas confiance, puis moi j'ai été formé pour tenir les gens jusqu'au dernier moment. Donc là, ce n'est plus du care. C'est du soin curatif. Mais le care doit aller, selon moi, jusqu'au respect, amener la personne à pouvoir prendre une décision. C'est en tout cas ma conception. Et donc, c'est dans ce rapport du patient, du soignant au soigné, au sens large du terme, que l'on peut trouver, je pense, ce début, cet embryon de volonté de chacun de retrouver une vraie liberté. Dans ces moments où on est très vulnérable, dire voilà, là ça a du sens. Ça a vraiment du sens maintenant d'être libre, de vraiment d'exprimer ce que je veux être, comment je veux vivre, comment je veux terminer ma vie, comment même je veux vivre ma maladie, qui ne sera pas la dernière. Mais ça, je ne veux pas qu'on me le vole, je veux que ce soit moi. Et je ne suis pas ici en train d'essayer de développer une théorie qui serait uniquement valable pour les soins de santé. Parce que derrière cela, pour ceux qui étaient là lors de la session plénière avec Christian en arrière, ma démarche ici s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste de ce que on appelle, Christian et moi, la lucidité existentielle. La personne consciente de ces dynamiques, qui va pouvoir développer cette fameuse liberté ontologique, elle ne va pas lui servir uniquement face aux soignants, et évidemment. La personne qui se sent plus libre, qui développe la liberté, elle va être libre pour tout. Avec effectivement tous les risques possibles. Risques individuels, risques sociétaux, risques pour ici, pour le soignant. Et je vais prochainement aller parler dans un congrès de médecins à plusieurs reprises. Où je vais essayer de développer cette pensée-là. Je ne sais pas comment je vais être accueilli. Parce que comment est-ce que le médecin va dire, comment il va m'accueillir en disant... Vous voulez que j'ai un patient autonome, assertif, libre, qui va peut-être me dire votre truc que je n'ai pas besoin. Un Ivan Illich, un Paul Goodman, qui a inspiré Ivan Illich. Paul Goodman, Ivan Illich, tous les deux sont morts connaissant leur maladie, en refusant les soins de santé. Je ne dis pas qu'il faut arriver à cela. Mes capacités de base, c'est de dire d'abord, qu'est-ce que c'est la santé ? Et je crois... qu'actuellement, l'idée que nous en avons, c'est l'idée qui est véhiculée dans la société. Qu'est-ce que être en bonne santé ? Et à nouveau, être en bonne santé, est-ce que nous avons, nous, notre propre définition ? Ou est-ce que c'est pour répondre à ce que l'on impose ? Être en bonne santé, c'est pouvoir faire du job, marcher, courir, rouler à vélo, tas de choses comme ça, paraître en bonne santé. Avoir une allure vive, bonne couleur, ou la mauvaise mine. Et alors ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Et donc, moi, je souhaite qu'on revienne à cela, aux fondamentaux. C'est moi qui décide ce qu'est d'abord la santé, ce qu'est la bonne santé pour moi. Et ça m'amène à voir, est-ce que je consomme ou ne consomme pas ? Donc, ça ne veut pas dire, forcément, je vais tout refuser comme soin. Non, chacun est libre à ce moment-là de dire, eh bien, voilà, ok, moi, je fais une gastroscopie, je ne veux rien sentir. C'est la liberté. J'ai un cancer, je veux qu'on aille jusqu'à la fin. Je veux être sûr que prolonger ma vie jusqu'à la fin. La liberté. Mais je peux aussi pouvoir dire, sans être stigmatisé, je veux que ça s'arrête ici. Je veux suivre mon chemin, changer, prendre une médecine alternative. Et ça se passe, mais difficilement. Donc voilà un petit peu le processus que j'essaye de penser à ce stade-ci. Mais qui me paraît avoir du sens. Et qui permet d'élargir cette liberté à d'autres domaines de la vie. Dans le domaine commercial, dans le domaine de la consommation. Et les risques, évidemment. Les risques d'un individu libre, autonome, qui peut devenir responsable, fort de ses capacités de base, peut devenir responsable. Étant responsable, peut acquérir de nouvelles capacités, de manière individuelle et collective. Le risque, réellement, c'est d'avoir quelqu'un qui est beaucoup moins manipulable. Même si le souhait de tout producteur, de tout vendeur n'est pas en premier lieu de manipuler, le souhait de vendre, de produire, on connaît. Je ne veux pas ici refaire toute l'histoire du PNB, qui est l'instrument favori pour évaluer le niveau de satisfaction, de bonheur, de bien-être d'une nation. Hein. À l'opposé, vous avez le bonheur national brut du Bhoutan. Et puis, Sen, hein, notamment, qui a été à l'initiative de Sarkozy, paraître étonnant, mais quand même, avec Sen, Fitoussi notamment, Stiglitz, hein, qui ont établi un rapport très volumineux, intéressant, c'est toujours le problème, c'est qu'après, si on veut le lire, c'est pas évident, et des résumés. Puis alors, on peut faire aussi une recherche maintenant, dire, voilà, je recherche le mot liberté ou responsabilité, et puis on voit toutes les pages où c'est marqué, c'est pas mal. Donc, eux proposent autre chose. Donc, il y a quand même un mouvement de pensée. Mais il est clair que ce genre d'attitude, une liberté ontologique retrouvée ou trouvée, pour l'individu qui est soigné, c'est forcément une liberté qui sera transversale, qui va exploser dans les autres domaines de la vie. Et qui amènera peut-être des gens à dire maintenant, stop, stop, je n'entre plus dans ce canal de consommation, de production. C'est le risque à courir. Est-ce que c'est un risque grave? Quand je constate les questions qu'on se pose sur l'avenir de la planète, la grande majorité des gens maintenant constatent le réchauffement climatique, l'influence de l'être humain, mais d'autres penseurs, Claude Allègre par exemple, continuent à dire que tout ça, c'est du vent. Hein. Bon, mais malgré tout, il y a de quoi réfléchir. Et donc, en entrant pour les soins de santé, domaine que je connais pas mal, je me dis, je peux initier un autre individu qui va être différent pour toute chose. Donc, il faut en prendre conscience. Alors, avant de conclure, je me suis demandé, tiens, est-ce que dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas avoir, finalement, la même démarche? C'est pas qu'il faille des maîtres à penser, c'est pas ça. On peut tous être celui qui pratique le care pour l'autre. Et le care, comme je l'ai dit, c'est le souci de l'autre. L'empathie nous amène à prendre soin de son corps, de son esprit. Les soins de santé, pourquoi? Je l'ai dit, c'est transversal, tous concernés. Mais on est pratiquement tous concernés, beaucoup de gens sont concernés, du moins pour une partie de leur vie, par le monde du travail. Et il me semble qu'il y a là aussi, peut-être, un mode de pensée, une démarche, un processus à initier. Je pense que dans les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, tout qui a l'ascendant sur d'autres, on pense au grand patron, mais à toutes les strates de la hiérarchie, on peut tous se comporter avec du care ou pas, on peut tous permettre à l'autre de devenir libre. Je n'ai pas travaillé dans le monde de l'entreprise privée, mais j'ai quand même, malgré, c'est pas très vieux, mais j'ai quand même pas mal d'expérience dans d'autres domaines que celui actuel de la recherche, et dans des domaines où j'ai travaillé avec des gens sur le terrain. J'étais gendarme, militaire, officier à l'armée pendant 13 ans, enseignant dans l'école militaire, dans des bataillons de cavalerie, j'étais sur le terrain, en manœuvre, dans des chars avec des gens pendant 15 jours, et j'ai dû évaluer des personnes, engager des personnes par la suite dans d'autres boulots que j'ai pratiqués, et là j'ai constaté que, là, et pour le moment je fais encore ce genre d'entretien de fonctionnement avec des gens de mon personnel, on peut, dès qu'on a une situation où on a un certain ascendant sur les autres, par la position que l'on occupe, on peut, si on le désire, on peut pratiquer ce care. On peut faire en sorte que la personne en ressorte du bureau, ressorte de l'entreprise le soir, en se disant, eh bien, j'ai travaillé, mais je me sens plus libre. J'ai vu mon patron, j'ai vu mon chef de service, j'ai vu un collègue qui a plus d'influence que moi, il m'a plus rendu libre que compressé, que mis dans une gangue de réglementation, de « il faut que ce soit comme ça, c'est comme ça et pas autrement ». Donc, il me semble, dans le monde de l'entreprise, il y a aussi des possibilités. Et si on a cet effort qui est pratiqué dans le monde de l'entreprise et dans le monde des soins de santé, on touche pratiquement tout le monde un jour de la vie. Et ça se répète. Heureusement, la santé, on n'est pas confronté tous les jours, mais dans le monde du travail, on peut tous les jours de la vie. Et alors, l'avantage de toute cette démarche, c'est que ce n'est pas seulement celui qui essaie de libérer l'autre, pas celui qui est libéré qui en ressort plus libre, celui qui essaie de le libérer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même démarche intérieure. Conscient qu'il est en train d'essayer de libérer l'autre, lui-même prend conscience de cette vulnérabilité et de ce besoin de se sentir libre, authentiquement libre, et devenir authentiquement responsable. Rien à voir avec la responsabilité
la pseudo-responsabilité du ticket modérateur. Avec l'incitant financier, rien, rien, rien. Il n'y a pas de place pour l'incitant financier dans cette démarche. Il n'y a que de la place pour l'empathie, le care, l'altruisme. Pas l'altruisme au sens de Kourilski, un altruisme. Du sens, au sens, je donne sans espérance de recevoir en retour. Mais le fait que je donne, ça me donne à moi-même. Donc voilà, voilà, voilà ma démarche, qui est personnelle, qui est discutable évidemment. Et d'ailleurs, après le break, on pourra en discuter. Je suis extrêmement intéressé de vous entendre. Donc pour conclure et pour faire le tour de ce que j'ai dit, je pense qu'on a bien compris, enfin j'espère avoir été clair à cet égard-là, qu'il y a cassure hein, entre responsabilité authentique et pseudo-responsabilité et transfert de responsabilité. Il y a dans le terme responsabilité quelque chose qui, en fait, de galvaude. On galvaude le terme, tout comme on galvaude le terme amour ou amitié. On utilise donc, au plus on entend un terme souvent, au moins on l'utilise à bon escient. Donc j'ai bien mis en évidence ce rôle nécessaire de la liberté ontologique, de l'autonomie, tout en ne le définissant pas de manière exhaustive et extrêmement précise. J'avoue humblement, je cherche, je ne suis pas au bout de ma pensée, évidemment, heureusement. Ce qui est intéressant, c'est donc les réalisations réelles, hein, beings, doings au sens de scène, mais en élargissant son concept de liberté à la liberté d'agent. Parce que si on veut un individu responsable collectivement, et c'est peut-être une réponse à notre intervention, il faut ne pas se limiter à la liberté de bien-être, au sens de scène, dire mais je peux aller plus loin. Je suis libre, mais donc je suis libre aussi de choisir de me donner aux autres, à la collectivité, dans des choses extrêmement concrètes. Dans, par exemple, le paiement d'impôts, de cotisations sociales, de pour qui je vais voter en connaissant le programme du parti. Donc, c'est à ça aussi que je pense. Donc, ça relie responsabilité collective et individuelle, je viens de le dire, et les portes d'entrée. Voilà. Santé, à mon sens, certainement. Travail, on en parlera après la pause. Et, indiscutablement, je pense, en avoir fait la démonstration, on est tous concernés en tant que donnant le care, en recevant ce care, et tout le monde, tous individuellement et collectivement, pouvant bénéficier de cette montée, de cette résurgence d'une liberté ontologique. Voilà, merci.
C'est pas tout à fait évident il y a énormément, enfin il y a déjà pas mal de questions qui ont été formulées, je ne vais pas les reprendre maintenant, c'est pas le but. Je pense que chacun va pouvoir le faire, mais quelques thèmes qui ressortent déjà, c'est en tout cas la question de la relation en termes de responsabilité entre le médecin et le malade, mais ça pourrait être le manager et les membres de son équipe. Par exemple, de savoir si c'est un jeu à somme nulle, en gros, s'il y aurait plus de responsabilité dans le chef du membre de l'équipe, est-ce que ça réduit la responsabilité et tout ce genre de questions-là, est-ce qu'il ne faudrait pas l'inverser? Il y a toutes des questions, alors plus fondamentales autour de la notion de liberté, quid du déterminisme, parce que tu sembles faire des distinctions entre la liberté, par exemple, si je n'ai pas assez d'argent pour me nourrir, ou la liberté plutôt liée à la religion, de ne pas me nourrir parce que je veux faire le ramadan. Bon, mais est-ce qu'on a vraiment, même dans ce cas-là, une liberté? Est-ce qu'on n'est pas déterminé? Enfin, tu vois, bon, voilà. Je propose que chacun reprenne ses questions en fonction. Voilà, je ne sais pas si tu veux. Il y a quelqu'un qui veut commencer par une question en particulier. Le premier se lève.
Juste une question par rapport à la notion de liberté ontologique versus bonheur. J'ai l'impression que ce que vous dites est basé sur le fait que si on avait le choix entre le bonheur ou le bien-être, on choisirait, et la liberté, on choisirait forcément la liberté ontologique, ce dont je ne suis pas sûre. Ou bien, je n'ai pas bien compris cette liberté ontologique, elle est développée plus dans un cas particulier lié à la vulnérabilité ou une relation empathique forte.
Bon, je crois que fondamentalement, nous cherchons tous à être heureux.
C'est discutable. Hein.
Non. Je ne sais pas vraiment comment définir le bonheur.
Tout sauf Laurent.
Non, mais ça
dont on pense qu'il peut nous apporter une satisfaction.
Il faut pas envie du bonheur, c'est encore autre chose.
Si tu veux, allez, je prends deux objectifs qui peuvent être très différents, mais qui peuvent être complémentaires. La recherche de la vérité ne te mène pas nécessairement au bonheur, si tu veux.
Non, voilà.
Mais pourtant, tu peux dire, tu peux décider que ta quête de la vérité est plus importante que le bonheur. Oui. Tu vois,
mais je pense qu'on a un peu aussi un signe. Pour moi, la recherche de la vérité est très inconfortable, avec des moments de détresse, de déprime, c'est pas le bonheur. Donc, on peut faire entre les termes.
Oui, ouais.
Et donc, moi, je ne vois pas de dichotomie directement entre bonheur et liberté ontologique. Au contraire, je dirais à la rigueur, le développement de la liberté ontologique, c'est peut-être un accès à un bonheur avec des guillemets, donc à un état de recherche, de processus, jamais terminé, jamais fini, dans lequel on s'installe, où on se dit, j'ai de plus en plus de place. Et ce n'est pas nécessairement confortable. Lorsque le patient dit à son médecin, écoutez, là, je ne vais pas continuer ce traitement, je ne serai pas pris en charge, on me dira plus ce que j'ai à faire, on ne me tiendra pas, donc je vais m'en sortir tout seul, enfin, je vais en sortir et faire des trucs tout seul, ce n'est pas confortable. Mais ce n'est pas antinomique avec l'idée que moi, je me fais du bonheur. C'est-à-dire, moi, j'ai pas l'idée de bonheur, je suis assis dans ma chaise longue, il fait beau, c'est bien, je suis dans un hiver, c'est pas ça. C'est même dans le profond, dans mon lieu, me dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait cette journée, quel sens de ma vie, c'est pas malheureux, je suis pas malheureux.
Mais c'est
une recherche de sens. Voilà, mais une recherche de sens n'est pas pour moi, chacun sa définition, mais ça n'est pas associé du malheur. C'est associé à ce que je me fais comme idée du bonheur. J'ai la chance de me poser la question, de ne pas avoir de réponse, ou pas encore, ou peut-être jamais, je me pose la question et je me sens exister. Je me dis, ben, sur Terre, on fait partie de ces êtres-là, ces animaux qui sont capables de se poser ces questions en recherche. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est le bonheur, vraiment, c'est vrai bonheur. Quel que soit l'endroit où ça se fait, mais c'est ma définition. Donc, vous voyez, je ne fais pas de dichotomie. Ou alors, on pourrait dire, la première, cette liberté, c'est une liberté qui appelle justement à un bonheur que nous devons nous-mêmes définir. Et là, aussi, la liberté, elle joue son rôle. C'est nous-mêmes qui dirons, voilà, maintenant je me sens bien, je sais que ça va durer peut-être une éternité, et qu'est-ce que c'est se sentir bien pour moi? C'est à moi de décider, c'est à nous autres à me dire, ben faites ceci, c'est ce qu'on entend. Tous les jours, on ouvre la radio le matin, il y a pratiquement plus de temps, j'exagère, beaucoup de temps dans tête de publicité, on dit voilà, faites attention à ceci, tous les exemples on connaît, quoi, hein, ça va de la voiture à acheter, à l'érection des hommes, mais chaque fois, si vous faites ceci, vous achetez ça, vous sentirez heureux, vous serez le vent fêté dans des cartotables, mais on nous fait croire que c'est ça. Non, on peut très bien être dans une grande plénitude sans avoir quoi que ce soit de cela. Mais ça ne le dit pas. Ça, on ne nous donne pas de l'information. Parce que je pense que ce n'est pas fonctionnel dans la société. Si on dit ça, on détruit sur les bases sur lesquelles on a construit une société, en tout cas en Occident. Et on prend un risque énorme. Parce que derrière ça, il y a quoi? Il y a moins de production, moins de consommation, il y a du chômage. Comment on gère ça? Et ça, j'avoue que c'est un vrai problème. Un problème, je n'ai pas de solution.
Et alors, par rapport à ça, est-ce que tu peux expliquer par liberté ontologique. Est-ce que c'est un sens de parler de liberté? Les déterministes vont te dire, nous sommes de toute façon, même lorsque nous avons l'illusion d'être libres, en fait, bon, il y a toute une série de déterminismes derrière. Donc, à partir de quand commence la liberté, selon toi, parce que c'est fondamental pour avoir une discussion solide maintenant.
Je pense que je suis vraiment en phase avec ça, on vous suit très bien dans le guerre, générosité, et sur le point de la liberté ontologique, quand on vous imaginait ce retard d'opération en disant « je suis libre », il y avait quelque chose chez moi qui disait « mais il a de la chance parce que mon papa qui est Alzheimer, lui, il n'est pas libre quand il est place. » Et en fait, il a confié, sans pouvoir l'exprimer, sa liberté à sa famille, et c'est peut-être notre noblesse de nous dire un jour que nous n'avons de liberté que celle qu'on veut bien confier aux guerres des autres. Et dans cette vraiment liberté ontologique, on est un petit peu prudent par rapport à ce que vous dites, tout en vous suivant, très soyeux la responsabilité. En fait, on a de la liberté que si les autres veulent bien vous l'accorder.
Oui, j'aime bien, j'aime bien réagir dans une direction un peu différente. Bon, je le disais tout à l'heure, j'ai une très grande expérience de patients dans les hôpitaux pour des exercices pas trop assez extrêmes. Et ce qui m'a permis de traverser avec une certaine sérénité ces choses-là, en tout cas au fur et à mesure, j'ai appris, n'était pas dépendant des autres.
Non.
Était purement dépendant de ma capacité à pouvoir contrôler ma respiration, à ne pas avoir besoin d'un appareil extérieur. Vraiment, à ce stade-là, je ne sais pas ce que vous parlez de liberté, mais vraiment, je suis convaincue qu'il y a un noyau d'autonomie qui permet de vivre sur ses ressources et sur ses références, indépendamment du reste du monde.
Parce que le cerveau fonctionne bien. Parce que vous avez l'ambition de croire que votre cerveau fonctionne bien.
Oui, bon, mais le cerveau.
Je sais, mais l'Alzheimer en croissance, je pose la question, quel sens ça a dans notre société actuellement, qui est de plus en plus d'Alzheimer. Moi, je trouve que c'est aussi un grand problème en questionnement. Sauter l'individu est là, et au niveau collectif, se demander quel sens ça a d'avoir une croissance de l'Alzheimer. Oui, mais je n'ai évidemment aucune réponse à la
Je comprends l'interrogation. Enfin, est-ce que j'essaie de répondre. Bon, je ne vois pas la liberté ontologique comme quelque chose qu'on acquiert, point, c'est clair. Elle commence, selon moi, c'est un processus qui commence dès que l'on se pose la question, dès que l'on sort d'un carcan dans lequel je trouve que je suis complètement. Souvent tous, de messages publicitaires et autres, pas seulement de publicité pour des produits, mais aussi des messages sur ce qu'est un homme, ce que doit être un homme, ce que doit être un homme actif, une femme active, ce qu'on doit faire de son corps, comment on doit consommer, comment agir. Bon. Dès que l'on se dit, mais tout ce que j'entends, faire un exercice par exemple, on entend à la radio certains messages, on se dit, on vient de dire tout cela, je vais entendre 10 messages publicitaires. Je sais que ça va m'influencer. Je vais aller chercher un produit quelconque. On sait d'ailleurs, on le montre. Hein. On va d'abord chercher le produit. On va chercher le produit dont on a entendu la publicité un peu avant. De quoi ai-je vraiment besoin ? Qu'est-ce que ça me pose comme question en moi ? Par rapport à la mobilité, par exemple, si on parle de voiture, c'est par rapport au voyage, besoin de transhumance, si on parle de vacances. Donc ça commence déjà là. Oser se poser la question. Ce n'est pas innocent du tout. Ce n'est pas insignifiant du tout. Je crois qu'on est très souvent pas amené à se poser la question. On doit fonctionner. On doit fonctionner, agir, travailler, consommer. Et donc, on reçoit une série d'informations. Et moi, je pense que dès qu'on commence à se poser la question, on commence à développer ce que j'appelle cette liberté ontologique. Et pour passer au cadre dont on parlait, c'est un cas très interpellant. Parce que, par exemple, John Rawls dira ma théorie, c'est théorie pour des personnes qui sont passées derrière un point ignorant, qui ne savent pas qui elles sont, qui peuvent réfléchir, générer des principes de justice, mais qui sont capables de raisonner. Et donc, il retient cette théorie les personnes handicapées, démentes, les jeunes enfants, etc. Oui, mais il faut bien prendre conscience des limites de certaines théories. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Et quand vous posez votre question, je n'avais pas encore vraiment réfléchi parce que c'est un point délicat. Il me reste cette réponse. Je ferai référence au concept de liberté que j'appellerais contrefactuel. C'est-à-dire que, quand vous le disiez très bien, votre papa a donné sa liberté à ses proches. Et c'est aux proches à faire contrefactuel, c'est-à-dire faire comme si. Je vais agir comme si. Pour autant qu'il y ait une discussion, qu'on connaisse bien l'autre, hein, je suis d'accord. Mais la volonté étant non pas faire ce que moi j'estime être bien, mais essayer de faire ce que lui aurait souhaité de faire
s'il pouvait s'exprimer maintenant. L'avantage de se comporter comme ça, c'est que on ne retire pas toute la société, un ensemble d'individus qu'on considère comme incapables d'être libres. Et c'est pas seulement les grands malades, c'est pas seulement les petits-enfants, c'est dans notre société toute une série de personnes qui n'ont pas les capacités notamment financières, de production. La vie par rapport au chômeur, combien de fois dit-on pas, ils ont leur action de chômage, on les prend déjà en charge, nous savons ce qu'ils devraient entreprendre comme action pour s'en sortir, est-ce qu'ils sont encore des citoyens de premier rang? Et donc, quand on fait bien attention, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Et donc, il y a beaucoup de gens pour lesquels ce concept de liberté contrefactuelle peut jouer. Et c'est là justement, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas la capacité, selon nous, d'avoir cette liberté, soit de manière objective, un grand malade, qui ne peut plus s'exprimer. Là c'est clair et c'est définitif. Mais aussi toutes ces personnes dont ils ne l'ont pas encore, c'est là que intervient mon care. Voilà, je suis face à quelqu'un qui ne l'a pas. Madame disait, voilà, j'ai participé moi-même, bien sûr, mais je crois qu'on n'est pas tous égaux de ce point. Toutes les personnes qu'on rentre, moi, qu'on présente dans l'hôpital, ne vont pas tous se comporter comme ça. Et c'est là que je pense qu'il est essentiel qu'il y ait, pas des maîtres à penser, pas des gourous, mais des gens qui aient assez d'empathie pour se dire, je retrouve chez eux la vulnérabilité qui est aussi la mienne, et je veux faire en sorte qu'au plus profond de cette vulnérabilité, ils parviennent à développer de l'autonomie, de la liberté réelle, dire un petit peu sous la question, qu'est-ce que je veux moi? Ça commence très tôt. Tel médicament, un autre exemple, tout bête. Vous êtes allergique. On dit voilà du Zyrtec, le produit générique. Vous le prenez, ça vous endort un petit peu, mais ça va mieux. Possibilité. Ou alors, je ne prends pas ça, je prends un truc alternatif, ou rien du tout, et j'aurai une vie qui coule. Hein, mais je ne serai pas en premier. Je n'aurai pas les effets secondaires. Donc j'accepte les effets primaires, et je ne suis pas soumis aux effets secondaires. Cette petite chose-là, c'est déjà pour moi. Cette liberté ontologique. Mais, désolé, mais je ne crois pas, je ne vois pas dans la société, je ne vois pas qu'on essaie de la développer. Je vois tout le contraire. Je vois des guidelines, je suis très bien placé pour vous en parler, puisque je travaille dans un institut scientifique où on établit des guidelines, à raison, parce qu'il faut cadrer un petit peu certaines choses, comme on parle de la santé des gens, d'appareillage, de médicaments, d'implants, de prothèses très coûteuses. Mais en même temps, c'est guidelines, c'est réglementation. Réglez. Et voilà, il faut être là. Et si on en sort, on fait de la mauvaise médecine. Oui, alors l'argument médical est de dire, c'est pas si simple. Et ils ont raison, c'est pas si simple. Il faudrait arriver à une médecine qui est adaptée à chacun. Et c'est pour ça, je pense, que les médecines alternatives ont tant de succès. Parce qu'on est face à des gens qui ont une vision holistique. J'ai un patient dans moi, j'ai un patient. Je ne soigne pas un organe. Je soigne un patient. Mais quel dévouement, quelle énergie, quel temps il faut pour prendre en considération. C'est une heure ou deux heures à passer avec quelqu'un, comprendre, savoir d'où il vient. Mais, donc voilà, je suis extrêmement conscient que le concept est encore embryonnaire. Je suis en recherche, et d'ailleurs, ce genre d'échange pour moi est très riche. Mais disons que je pourrais vous répondre ça. C'est déjà le premier pas vers.
Au fond de ce que tu viens de dire, ce qu'on peut dire alors que le care, c'est un peu l'équivalent de ce que faisait Socrate, puisqu'il stimulait la personne à poser une question qui lui permettait alors d'aller plus loin. Si je résume très fort,
oui, bien sûr, on pourrait effectivement dire Socrate pratiquait le care,
voilà,
à sa façon, et d'ailleurs, et limiter le care aux soins corporels, c'est évidemment, mais il suffit de prendre les cartes de son care, c'est rendre compte, c'est pas ça du tout. Le care, c'est. On est tous autour de care et bénéficiaires de care, au sens très large du terme. Et c'est pas non plus un hasard si c'est lié à la littérature féministe. Parce que dans nos sociétés, ça change bien sûr, quoique, malgré tout, la femme reste quand même l'acteur principal du care, même si elle a une activité professionnelle. Donc elle est censée, et à nouveau, ça fait vraiment la performance, on est censé être multifonctionnel. Mais nous sommes tous amenés à l'être, à faire du care. Il n'y a pas plus de raison que ce soit l'un ou l'autre. Et donc la prise de conscience qu'on peut le pratiquer, c'est effectivement, tu as raison, Socrate en faisait.
Platon aussi, non?
Socrate, ouais, enfin, Socrate n'a rien écrit, Socrate n'a fait que parler, et Platon a écrit ce que Socrate avait dit, enfin ce qu'on pense que Socrate avait dit, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ces gars-là, mais Socrate n'a strictement rien écrit, il a parlé.
Mais une question que je me pose par rapport à ce que vous dites là sur le Caire, c'est finalement, quelles sont les limites? Parce que l'une des grandes questions qu'il y a par rapport à l'efficacité des systèmes de soins de santé, c'est un peu qu'on est dans un système de ressources limitées et où, quelque part, on doit être efficace pour les soins parce que c'est tous des moyens qu'on ne peut pas consacrer à l'enseignement ou à d'autres mécanismes de transfert. Du coup, avec la notion que vous introduisez de Caire, quelle est finalement, quelles sont les autres dimensions qui ne sont pas englobées dans le CARE et pour lesquelles finalement il faut faire des arbitrages?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'elle me permet de dire qu'on n'est pas dans le marché. On n'est pas dans le remboursement de soins. On n'est pas dans l'arbitrage entre différents secteurs. Le CARE, je n'imagine pas un niveau de nomenclature le CARE. Aller à l'encontre de la philosophie. Le CARE, c'est un état, c'est une façon d'être, c'est un processus pour le soignant et pour toute autre personne. C'est la porte d'entrée du soignant. Mais ça devrait être consubstantiel à l'activité du soignant. Et donc, il n'est pas question de savoir si ça coûte plus cher ou moins cher. Je crois même qu'au contraire, ça coûte très moins cher. Parce que rendre le patient autonome, réellement libre, certains diront, le système est là quand même pour vous faire consommer les soins, mais c'est aussi une très grande, grand nombre. Là, c'est bon, je vais vraiment consommer ces médicaments. Je vais voir les effets secondaires, je ne veux pas le faire. Donc, je ne pense pas que ça coûterait plus cher, et je pense, de manière fondamentale, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas monnayable, et c'est justement dans la volonté de changer la société. Si on est tous dans le CARE, on fait tous des choses les uns pour les autres, on ne se monnaie pas. On donne tout ce qu'on peut donner, et certains donnent beaucoup, d'autres moins. Recevoir aussi. Recevoir, c'est pas simple. Et c'est difficile de donner, mais encore plus de recevoir. Donc, je crois qu'on n'est pas dans ce registre-là, il me semble.
Mais est-ce que vous englobez, par exemple, de l'enseignement aussi dans le CARE?
Alors, au sens large du terme, si on ne se limite pas à dire voilà ce qui est, point, récitation de main, comme on sort de cela, on entre dans le CARE. Le CARE est une définition extrêmement large. Et c'est pour ça que ça ne peut pas se monnayer, se marchandiser. Alors qu'on a plutôt tendance à essayer de tout marchandiser. C'est juste le contraire. Bien sûr, un enseignement, comme je le conçois, qui permettrait, parce que c'est une autre porte d'entrée, évidemment, l'enseignement. Mais il faut commencer par quelque chose. Mais on a très vite compris que les portes d'entrée, il y en a beaucoup. Et l'enseignement, évidemment, une, qui commence très très tôt. Mais ça devrait faire partie de l'activité principale. Et peut-être même un jour devenir l'activité principale. Être dans le CARE, ce serait notre activité principale. Nous serions tous les jours dans le CARE, tous les jours, les uns vis-à-vis des autres. Ça paraît être un peu utopiste, mais ce serait vraiment idéal.
Et même lié à la nature.
C'est une question. C'est une question qui... Et là, ça rejoint la liberté ontologique. En disant la liberté ontologique, on dit... Elle existait quelque part et elle nous permet de révéler notre nature qui nous amène à avoir de l'empathie, être altruiste. Et... Je n'en sais trop rien.
Je veux de la nature avec un grand M. Donc, être dans le CARE pour nous, chacun, comme individu, pour les autres, mais aussi par rapport à nous.
Ah oui, dans un sens, dans ce sens-là, oui. Oui, oui.
Mais est-ce que c'est nécessairement opposé aux marchands? Nécessairement, est-ce que les deux ne peuvent pas... L'un n'empêche pas l'autre, à mon avis, quoi.
Oui, mais je vais pas dire que je partage l'idée, je conçois qu'on puisse se poser la question. Hein, oui. Dans un monde qui est tellement fondé sur le marchand.
Ah, donc, ça, je suis bien d'accord.
Ça, si on remet en question le caractère compatible du marchand, contre le caractère marchand, compatibilité avec le CARE, ça devient problématique. Je crois quand même que ce qui nous amène à consommer, à produire, la façon dont on le fait, regardez quand même tous les critères de productivité, comment se passe
Allez, on licencie des gens, souvent l'action monte. C'est quand même, je ne sais pas, j'ai quand même des
difficultés. Ça, c'est le côté noir du marchand. Mais...
Voilà. Oui, il faut d'abord définir le marchand.
Voilà, c'est ça.
Le marchand, ouais. C'est le valeur du marché, c'est l'offre et la demande qui fixe un prix, c'est une chose, autre chose, c'est la croissance, un prix. C'est déjà deux trucs.
Oui, mais déjà,
on peut se voir dans le marchand.
Mais l'offre et la demande qui fixe un prix, quand on regarde d'où ça vient cette idée-là.
Je ne sais pas que c'est.
Ah non, mais je ne veux pas, c'est pas un jugement. Je veux dire, fondamentalement, d'où ça vient? Il y a Walras nous dit, hein, toi l'araignée, on arrive progressivement, on utilise un commissaire-priseur qui prend les offres et les demandes, et on arrive, on ne sait pas très bien comment, la main invisible de la Suisse, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais on dit qu'on peut tracer une courbe d'offres, une courbe de demandes. Chaque point de la courbe d'offres, c'est un équilibre du producteur, chaque point de la courbe de demandes, c'est un équilibre du consommateur. On agrège le producteur et le consommateur pour bien donner. En concurrence parfaite, on nous dit qu'il y a atomicité des agents, tous, personne n'a plus d'influence que les autres. Homogénéité du produit. Le produit, il est comme ça pour tout le monde, c'est pas dans ce qu'il y a des marques différentes. Entrée esprit du système libre et transparence. Les hypothèses de concurrence parfaite ne sont jamais réalisées. Elles sont essentielles pour expliquer qu'on a un point d'équilibre qui détermine, à ce point-là, on a un prix d'équilibre, qualité d'équilibre. Et on dit, voilà, c'est là l'offre et la demande. Et on l'applique même au marché du travail. C'est peut-être l'endroit le plus aberrant pour l'appliquer. J'ai eu la chance d'avoir très longtemps un professeur d'économie du travail, qui nous parlait du coin du travail. Il tirait son petit terme, on rigolait un petit peu. À ce temps-là, on disait, souvent on disait, écris-moi. Et puis on réfléchissait, qu'est-ce qu'il avait raison? On est compte que nous serions tous sur une courbe d'offres de travail. Non, personne ne l'accepte. Quand on explique aux gens ce que ça veut dire, c'est non. Les autres peut-être, mais moi pas. Moi, j'ai une formation différente, je sais ce que je veux, je ne suis pas sur la courbe. Je suis un point, j'existe. Et donc, si le marchand, le côté marchand est lié à cela, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Parce que les fondements même, vraiment au fondement, de ce qu'il nous dit, offre, demande, point d'équilibre, ne tient pas. Ça ne tient pas la route. La maximisation du profit, comme c'est prévu dans les textbooks, celle du consommateur dans les textbooks, et tout ça ensemble pour faire envoyer. Non, ce n'est pas nous. Si je vous l'explique, je prends le temps de vous expliquer tout ce qu'il y a derrière, dire, mais allez, qui peut croire ça? Je pense, le Caire, c'est pas une question. Vous voyez, la personne qui vient sur la courbe, une courbe de Caire, par exemple. Si on se dit, on va appliquer la même chose pour le Caire que pour le marchand, on met les deux ensemble. Non, moi, le Caire, c'est. Je ne maximise pas, je ne dis pas qu'il faut maximiser son cœur. La liberté, il n'y a pas de notion de maximisation, de minimisation, de performance. Selon moi, on doit sortir de tout cela. Ce sont des termes qu'il faut évacuer.
Il n'y a pas de notion de rareté, en fait.
Il n'y a pas de notion de rareté, non. Au contraire, c'est le domaine pour lequel il y a l'abondance, mais il faut trouver le fond de soi.
Oui, enfin, moi, j'en parle très confortablement. J'ai pas un donc. Donc je ne me sens pas culpabilisé par être riche pour pas. Mais donc dans ma petite expérience, je connais des gens qui sont bourrés de pognon, qui sont hyper généreux ou hyper altruistes, ça ne les empêche pas de le faire. Par contre, dans des usines, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 2 gars qui la nuit, ils en sont venus au même. Il y en a un qui, enfin bon, heureusement que les collègues ont intervenu, sinon il y en avait un qui passait. Quoi. Donc,
oui, non,
vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois.
Dans l'accident.
Mais il n'y a pas de côté antinomique entre être riche, avoir, pour éduquer, c'est pas ça. C'est, je parlais de l'idéologie derrière la marchandisation, ça je voulais dire.
Okay.
Et c'est difficile d'adhérer à une idéologie de marchandisation, et dans le même temps d'adhérer à une idéologie de care gratuit où il n'y a pas de rareté. Les deux me semblent comme ça incompatibles. Mais ça ne veut pas dire du tout.
Si oui, mais on est tous pris dans le système, y compris vous. Vous avez un salaire qui est payé et pas, etc.
Ça rend encore plus indispensable la démarche de libéralisation ontologique. Parce que si on se dit, on est tous dedans, je suis d'accord avec vous, est-ce qu'on a envie de rester dedans? on constate, est-ce que ça me fait du bien d'être dedans? Est-ce que ça fait du bien au monde d'être dedans? Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'un autre monde n'est pas possible? J'en suis convaincu. Et chacun à son niveau. Oui. Déjà, on est ici, on réfléchit ensemble. On crée un autre monde. On sort, on ne sera plus les mêmes. Alors ça durera 5 minutes, 5 heures, 5 jours, toute notre vie. Je n'en sais rien.
Peu importe.
Oui. Donc un autre monde est possible.
Est-ce que ça ne nécessite pas qu'on change nos architectures et qu'on inverse la proposition, ce qui nous amène à la deuxième question?
Oui.
C'est-à-dire, en fait, le CAIR, il faudrait l'imposer aux prestataires, l'imposer, ou en tout cas,
l'éduquer le
prestataire à ce CAIR, mais non pas tellement sur la population malade, mais sur la population saine. C'est-à-dire, autrement dit, si je le dis plus simplement, les docteurs en Belgique seraient payés de façon mensuelle, avec un salaire mensuel, et seraient pénalisés en fonction du nombre de malades qui seraient dans leur...
Tu mutualiserais à l'envers, comme en Chine.
Donc ils auraient forcé d'être CAIR vis-à-vis d'une population qui...
Et les managers aussi, alors.
Parce que
on doit se rendre compte que le paradigme économique, même si à un moment donné ça revient toujours, même pour parler des soins de santé en général, et pour exercer notre liberté de façon, peu importe ce qu'on met derrière pour l'instant, on a besoin de ressources, on a évoqué tantôt, on a besoin d'informations, mais il y a aussi là derrière, parmi les ressources que nous avons, un imaginaire, une culture. Comment est-ce qu'on se représente la vie et régulièrement la santé ici? Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une culture où, de manière très marquée, les questions de santé sont pensées au terme d'ennemis extérieurs contre lesquels il faut lutter. C'est le microbe qu'il faut éliminer plutôt que l'immunité personnelle qu'il faut soigner. Ça se traduit d'ailleurs budgétairement dans notre état un peu compliqué. On a en tout et pour tout 15 millions d'euros par an pour la prévention, promotion de la santé à la communauté française. Rien que la campagne vaccination H1N1, c'est plus de 130 millions d'euros. Rien que ça. Ça donne une illustration de ce à quoi on donne priorité. Et au quotidien, quand on voit ce qui se passe dans les cabinets médicaux, en tout cas en médecine classique, c'est presque toujours ça. On va toujours chercher la solution, prescrire la solution extérieure qui est amenée, qui est pensée sur le mode consumériste, donc la pilule, ce qu'on peut vendre. Quel médecin parle d'alimentation? C'est rarissime, je trouve d'ailleurs ça scandaleux quand on voit l'impact que ça peut avoir. Quel médecin ose prescrire 20 minutes de sport par jour à son patient, sachant que le patient lui-même, dans cette culture-là, va dire, mais bon, moi je suis venu pour avoir la solution, pas pour qu'on me demande de faire du sport. Donc cette culture-là, il faut arriver à la changer si on veut progresser vers un mieux-être plutôt que vers davantage de marchandisation. Et comment faire dans le système de soins de santé aujourd'hui, par exemple, par peut-être évidemment la formation des médecins, c'est essentiel, mais au-delà de ça, en termes de mécanisme, pour favoriser cette logique d'autonomie des gens, miser sur ce sur quoi chacun a une capacité d'action.
Donc il y a deux choses. La première, c'est ça nous relie à la marchandisation, et ce qui m'a amené un jour à énoncer un paradoxe, parce qu'on disait on tente de responsabiliser les gens pour le bien public, mais en même temps, on veut que ce soit totalement irresponsable de bien privé. Donc, réfléchissez avant de consommer les biens publics, mais quand c'est des biens privés, on-off, là, je regrette n'importe quoi, vous lui achetez. Et même, c'est un double paradoxe, parce qu'on nous dit qu'on veut réduire les dépenses de santé, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? On veut augmenter de croissance des dépenses de santé. C'est un business.
Ouais.
Et donc, et c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir de la marchandisation. Parce qu'en restant dedans, inévitablement, même le lieu où je souhaiterais qu'on développe la liberté technologique, ce lieu-là, il est perverti par l'inflation. 23 milliards d'euros en Belgique, donc ça veut dire 8% du PIB, 10% du PIB de dépenses totales de santé, 16% aux États-Unis, avec une activité beaucoup moins importante. Donc c'est un business en soi. Est-ce qu'on a vraiment envie que demain on consomme la moitié, en sachant qu'il y aura des emplois perdus? Il y aura des implants, des prothèses, des choses qui ne seront pas vendues, des médicaments qui ne seront pas vendus, avec une partie qui ne sont pas très utiles. Ou en tout cas, certains, certainement, qui sont utiles, mais on a tout ce qu'on appelle les MeToo, donc les mêmes médicaments, mais qui ont une autre marque, un autre emballage, qui font la même chose, mais qui sont vendus un peu plus cher ou un peu moins cher, c'est plus très bien. Donc, si on ne casse pas ce carcan de la marginalisation, je ne pense pas qu'on va vraiment pouvoir jouer le care réel au sein de ce marginalisation. Parce que le médecin, son salaire, c'est une idée intéressante, évidemment. C'est-à-dire, on rémunère le médecin, parce que les personnes heureux, évidemment, de manière générale. Voilà. Alors, l'idée, j'avais sanctionné, si on a un indicateur de santé publique qui est moins bon, ce serait dire aux médecins, vous avez le monopole de la santé. Évidemment, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a tellement de choses à démontrer. Évidemment, ce qui a augmenté l'espérance de vie, on sait que ce ne sont pas les soins de santé. L'hygiène, simplement, on se lavait les mains, ça a permis de réduire de manière considérable les morts lors des opérations. Un jour, on s'est dit, tiens, comment se fait-il qu'autant de blessés, on se met à la champ de bataille, décèdent. Et puis, on ne se lavait pas les mains, plus que les soins de laver, et tout à coup, chute de la mortalité. Et là, on a gagné beaucoup, les égouts, l'alimentation saine. Donc là, c'est assez paradoxal parce que les soins qui coûtent très très cher ne participent finalement que très peu à leur conservation de la santé. Ils interviennent après. Il faut savoir que la plus grande partie des dépenses de santé, elles ont lieu dans l'année qui précède le décès. Et principalement dans les 6 mois qui précèdent le décès. Avec une courbe qui est cette forme aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, c'est à 55 ans, on peut faire ça ici en Belgique parce qu'on a des données très très fiables et très fines. C'est aux alentours de 55 ans que les dépenses de santé sont les plus importantes dans l'année qui précède le décès. Après, elles commencent à diminuer. Donc, une personne qui décède après 55 ans coûtera moins cher, entre guillemets, une personne qui décède à 55 ans. Et celle qui décède avant coûtera moins cher, généralement, c'est des zones de mort violente. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de soins. Donc, c'est le décès plus cher. Certains diront, il suffirait de savoir déterminer le décès, on le fait décéder les gens avant, on le fait décéder les gens.
Roland, on tient, hein. On tient. Hein.
C'est pas évident. Mais
si on regarde en termes de bonne santé, c'est les filles et les gens qui sont à quelques mois de leur décès, en général, c'est pas eux qui ont la meilleure qualité. Et pourtant, une grande partie de nos ressources vont.
Qu'est-ce que c'est l'efficacité?
Voilà,
c'est ça.
C'est quand même intéressant.
Quand vous en parlez, qui est l'acceptabilité de risque dans la société actuelle. Un des gros problèmes de ces dépenses, c'est qu'elles sont faites aussi pour se couvrir face à un certain nombre de risques ou de responsabilités médicales qui devraient être prises en place. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement culturel global qui est d'une plus grande acceptabilité du risque, en particulier du risque médical, qui est un exercice dangereux et donc.
Mais je peux vous assurer en tout cas qu'en Belgique, on n'en est pas là. La médecine défensive aux États-Unis, elle est bien réelle. La différence entre les 10% du PIB et les 16% du PIB aux États-Unis sont dues, selon moi, à deux facteurs principaux. C'est d'une part la privatisation, qui au fond est paradoxale, coûte beaucoup plus cher que le caractère public des dépenses de santé. Et deuxièmement, le caractère légal qui a pénétré le système. C'est-à-dire que tous les médecins risquent de se faire attaquer en justice lorsque le patient n'a pas pu avoir les soins qu'il aurait dû avoir si on avait tout su des patrons. Donc je n'en ai pas là. Même cette défense qui existe, mais c'est extrêmement limité. C'est un risque. Vous savez, quand il y a eu l'arrêt Perruche en France, c'était en 2002, c'est Madame Perruche qui a eu un enfant handicapé. On a fait une échographie, l'échographe avait dit pas de problème, votre enfant est normal. C'est l'enfant né handicapé. Il y a eu un procès par la suite. Il y avait des procès avant qui avaient pour but de demander l'indemnisation financière pour des erreurs médicales. Mais là, c'est différent. On revendiquait, en fait, c'était l'enfant lui-même, l'avocat évidemment, qui portait plainte parce qu'il était né. Donc il remet en question sa naissance. C'est une première. Ça déterminait donc il y avait un arrêt, la Perruche, que le ministre de l'époque, c'était Kouchner, je pense, c'était Kouchner à l'époque, a directement cassé, il a introduit une loi qui a dit, voilà, on ne peut pas intenter un procès contre le préjudice d'être né. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les semaines qui ont suivi, de nombreux échographes ont arrêté de pratiquer les échographies, ceux qui faisaient ça de manière marginale avec un vaccin, ont arrêté. Parce qu'au même moment, le monde de l'assurance, qui a très vite augmenté les primes, donc certains ne pouvaient plus
des régions de France, au sud de la France, on va constater que certaines femmes ont dû passer leur grossesse totale sans échographie. Donc vous voyez, dès que ça s'est passé, mais là on est tout à fait en dehors du cadre régulièrement. Quoi. Tout à fait, on est dans la marginalisation pure et simple. Je paye des prix pour me couvrir, vous avez tout à fait zéro. Le risque zéro, c'est qu'on essaie de nous faire croire qu'il est possible de tenir. Et c'est faux. Le risque de mourir, c'est 100% certitude. Ça veut dire que tous les jours, il faut se dire, je vais mourir, donc... Mais oui, en même temps, oui. En même temps, oui. Prendre conscience que... C'est ça aussi, lucidité existentielle, c'est lucidité par rapport au fait qu'on va mourir. Et beaucoup de choses, c'est envie de le dire aussi, beaucoup de choses sont faites, la consommation, la production, l'investissement, l'épargne, de façon de remplir une existence dont on sait qu'elle a une limite. Oui, alors certains pensent que c'est pas tout à fait fini après, il y a d'autres choses, d'autres pas, mais remplir ce vide par la consommation de la production nous sort tout à fait du caire, nous rend dans la marginalisation, et je crois, vraiment, je suis encore convaincu, il faut, si on veut atteindre cette espèce de bonheur à définir chacun, il faut en sortir, là on nous dit exactement ce qu'il faut faire, à quel prix on va acheter tel bien, et si on met ce prix-là, on nous rend en quantité, c'est tout à fait le contraire. Oui. En même temps, en donnant l'impression qu'on est. C'est ça qui est pernicieux. On dit toujours que finalement, c'est nous qui décidons. Nos données d'information sont tellement biaisées, les questions sur l'information sont tellement biaisées, qu'on n'est pas vraiment informé. Si on nous disait, dans la voiture, à partir de vos rêves, on va vous permettre de rouler à telle vitesse. Et si en même temps on disait, vous voyez, ça vous permet de rouler à 220 km/h, de 0 à 100 km/h en 7 secondes 2, mais de toute façon, il ne faut pas dépasser 120. Aller vite, démarrer très vite dans votre rue, ça n'a pas de sens. Consommation, si on parlait de tout ça et du coût d'assurance, si ça c'est l'information complète, ça serait moins sexy quand même.
Parce que aussi l'information qu'on reçoit est essentiellement publicitaire. Que ce soit nous, citoyens, assurants éventuels, que ce soit les médecins eux-mêmes, c'est essentiellement publicitaire. Ceci explique en partie cela. Vous avez dit tout à l'heure pratiquement 10% du PIB aujourd'hui en soins de santé, donc essentiellement en médicaments, au final. C'est tout ça que le paiement des médecins, enfin, en 30 ans, ça a plus que doublé. Alors que la proportion du PIB qu'on donne à l'alimentation, de nos ressources qu'on donne à l'alimentation, a plus que été diminué par deux. On est passé de 30 à 14% depuis 1970. On a là une différence énorme. Qui a intérêt à faire la promotion de la salade et des pommes? Pas grand monde par rapport à ceux qui ont intérêt à avoir de nouveaux produits, de nouveaux médicaments ou de nouveaux compléments alimentaires. Et un truc saisissant par rapport au niveau collectif, c'est aujourd'hui en soins de santé, l'impact sur le budget des médicaments contre le cholestérol. C'est énorme, c'est colossal. Or, c'est quoi le problème du cholestérol? Sur les maladies cardiovasculaires, apparemment, c'est vraiment pas grand-chose si on compare à d'autres phénomènes type excès de sel dans les aliments préparés, etc. De quoi se préoccupe-t-on de ce qui, finalement, fait un nouveau business plus que ce qui est efficace?
Tout à fait précis, les maladies cardiovasculaires, si c'est un gros problème.
Les maladies cardiovasculaires?
Oui. Mais
l'impact du cholestérol, par rapport à d'autres phénomènes.
C'est vrai que si vous prenez simplement, je ne suis pas médecin, mais enfin, je vous trompe assez bien dans le domaine pour pouvoir dire des choses élémentaires, le risque cardiovasculaire est déterminé selon différents paramètres, dont le cholestérol, mais qui seul n'a pas de signification. Donc on peut très bien vivre très très bien et ne pas mourir de maladie cardiovasculaire sur notre cholestérol. Il faut tenir compte du rapport bon de cholestérol, des triglycérides, éventuellement de diabète existant, d'obésité, de toute série de choses.
Ça marche là par rapport à d'autres facteurs.
C'est vrai. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a tout un lobbying pour des études pour prouver que l'efficacité de certaines statines est telle qu'elles sont associées à une moindre mortalité. Et donc, là, vraiment, c'est biaisé dans le sens où seules les firmes qui ont un pouvoir financier important vont entreprendre des essais cliniques qui vont permettre de prouver cela. Si demain, vous avez trouvé un produit naturel qui fait le même effet que le médicament contre le cholestérol, si vous avez simplement, vous êtes simplement tout seul, deux, trois, vous n'avez pas les moyens de faire un essai randomisé sur 2000 personnes, multicentrique, dans quelques membres du monde, donc vous ne le ferez pas, donc vous dira, prouve-moi que c'est efficace. Je ne sais pas. Donc ça ne vaut rien. Donc ça ne vaut rien, ça ne coûte, ça ne vaut rien. Donc effectivement, c'est. Mais le problème est réel, mais on nous fait croire qu'on peut le résoudre avec un médicament pour un paramètre. Mais le nombre de Belges qui en prennent maintenant, qui vont en prendre demain, c'est un marché gigantesque. Hein. On va arriver à 20% de la population très très vite. Si on prend les hypolipémiants, les hypotenseurs, les anti-reflux, donc les problèmes de gastro.
cela aura un impact beaucoup plus grand sur la santé et sur la sécurité que ce médicament.
Mais il n'y a pas d'unité économique qui est intérêt à...
Non, mais c'est justement pour ça que nous devons, en tant qu'individus, être plus libres et pouvoir faire porter notre voix plus loin. Vous parlez d'alimentation. Il y a quelques années, lorsqu'on a voulu supprimer les distributeurs automatiques dans les écoles, en France, puis après en Belgique. En France, il faut savoir que c'était une loi de la santé 2004. Eh bien, il y a eu tout un marchandage, jusqu'au dernier moment avant le vote, pour savoir comment est-ce qu'on allait faire passer la chose. Et il y a même donc, du lobbying qui a été fait, on peut voir sur Internet, hein, où on disait que les distributeurs automatiques dans les écoles étaient un lieu de sociabilisation. Ah oui, jusque-là. Alors finalement, il y a aussi un article sur la publicité. Vous savez qu'en France maintenant, dans une chaîne française, lorsqu'on fait publicité pour des produits alimentaires, il y a quatre petits messages qui apparaissent, enfin un des quatre, hein, manger beaucoup de filles, faire du sport. Eh bien, ces messages-là, quand on les a introduits, l'obligation d'introduire ça dans la loi, j'avais pensé à cette époque-là, je me disais, voilà, c'était ça, on payait une taxe. Une taxe de 1,5% sur le coût du marketing hors taxe. C'est ça exactement ceci. Je dis, ils vont payer la taxe, ils ne vont pas prendre le risque de mettre un message qui contredit leur publicité. Eh bien non, j'avais tout faux. Ils ont tous mis des messages, personne pratiquement n'a payé la taxe, qui est censé alimenter un fonds de promotion de la santé, hein, donc s'ils peuvent attendre ça, ils vont faire pour moins. Donc ils ont tous mis leur message. Pourquoi ? Eh bien, on vient de réaliser des études qui sont édifiantes. Hein. On se rend compte que les gens
vont pas voir.
Ils voient des cornflakes au chocolat, manger beaucoup de fibres. On a fait une étude là-dessus. Alors, d'abord, les gens, ils ne voient pas le message.
Ah ben oui.
Quand ils le voient, ils se disent, ah voilà, c'est des fibres. Et alors, attendez la tête. Encore meilleur, si on stratifie les réponses en fonction du niveau social, on se rend compte que 65% des gens du niveau social le plus bas, eux, croient, sont certains que ce produit-là, il y a des fibres dedans. Donc, à nouveau, l'information réelle, authentique, qui permet d'être libre. Alors qu'au départ, le but était louable. On pouvait promouvoir n'importe quoi, il faut dire qu'il faut faire attention. Non, il faudra aller de manière plus loin. Et là, peut-être, aller à l'encontre d'une liberté de l'agroalimentaire. Non, on ne fait pas de publicité pour ça, point.
Parce que, en côté français, c'est encore pire, puisque les campagnes de promotion de la santé à la télévision, etc., sont financées par les publicités pour l'alcool, maintenant plus le tabac, les médicaments, etc. Plus il y a de la publicité pour l'alcool à la télévision, plus on aura des moyens, pas grand-chose, pour faire des campagnes de promotion de la santé dans les médias audiovisuels. C'est le système actuel. Il n'y a pas d'autre financement de promotion à la télé, par exemple, qui est même un outil important maintenant en matière de promotion de santé, que les espaces concédés par les publicités pour médicaments, alcool, et quelque chose d'absolument pervers.
Tout cela pose la question, enfin, tout ce débat qu'on a maintenant sur la marchandisation versus le care, hein, pose la question de la transition aussi. Hein, parce qu'on ne va pas avoir une révolution qui, tout d'un coup, va nous donner l'illumination qu'on doit être dans le care. Donc la question, c'est comment. Parce que même si on se dit que ça a du mal à cohabiter, il va falloir les faire cohabiter si on veut un jour que le care l'emporte. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette transition. Je ne sais pas si tu as des idées.
Mais, justement, c'est pour ça que je me suis permis de parler de portes d'entrée. Les portes d'entrée, ce n'est pas j'ai fait table rase qui existe ou autre chose. Je n'y crois pas. Je pense que ce sera un processus très lent qui doit s'insinuer chez tout le monde. J'ai parlé des soins de santé, parce que la santé est tous concernés, le monde du travail, l'enseignement demain, et chacun à son niveau, progressivement, on rend les gens plus libres individuellement dans leur comportement de consommateur, de producteur, en tant que ouvrier, employé, époux, mère de famille. Et puis, progressivement, ça fait contagion, au bon sens du terme. Cette personne-là qui se comporte différemment dans le domaine de la santé va se comporter autrement ailleurs. Et progressivement, on parlera différemment, on aura un discours différent, on votera différemment. Et donc ceux pour lesquels on votera, ce sont les mêmes qui auront une autre idée. Et donc je crois vraiment qu'à terme, il y aura un effet de contagion. Je ne crois pas à la révolution radicale.
Mais comment stimuler ces contagions? Comment stimuler ces portes de passe?
Ce que je fais maintenant.
Moi je peux faire une proposition pour le soir. Moi je pense qu'il y a quand même un rôle sens qui ont été introduits pour moi me semblent totalement incompréhensibles. Donc, je prends un dire tout à fait récent, on a revalorisé la consultation de l'oncologue, hein, qui est vraiment, la consultation, c'est que du temps, il n'y a pas de machine, il n'y a rien autour. Cette revalorisation était strictement indispensable pour que les oncologues gagnent leur vie correctement. Et qui a payé cette revalorisation? Le patient, parce que la totalité de la revalorisation est passée en thérodérateur. Ça, je ne comprends pas, ça c'est la puissance publique qui le fait. Je trouve que ça n'a aucune cohérence par rapport aux moyens dont on dispose et par rapport au système qu'on a. Et donc mettre en cause la marchandisation, c'est bien, je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'on arrive dans un système différent. Par contre, assumer ce dont on est, mais en disant il y a un acteur, et c'est le public, c'est la puissance publique, qui lui peut contrecarrer les éléments, il le fait. Et qu'est-ce qu'un acteur de la puissance publique de dire stop en ce qui concerne le sel dans les aliments préfabriqués, par exemple? Je pense qu'on a la capacité de faire. Et c'est sans doute là qu'il faudrait trouver les moteurs de courage et de choix pour pouvoir le dire.
Moi, je viens du secteur agroalimentaire, c'est très difficile à mesurer.
Oui.
À mesurer, c'est maladie, voilà, on va limiter le sel, diminuer le sel par de 50% de nos productions. Il faut pouvoir le mesurer.
C'est du sel qui est ajouté pour des. Si je prends un exemple, un litre de soupe herbelle avec du sucre, fibres, huile, légumes, vous avez 50% de votre quantité recommandée de légumes dans regardez le sel. Si vous buvez ce litre de soupe, vous allez plus vers la quantité de sel que vous pouvez avoir en un jour. Si vous goûtez cette soupe, on va aller une soupe que vous faites maison, mangez ma soupe maison. C'est atroce pour saler, ce qui rajoute du sel. Pourquoi est-ce qu'il rajoute du sel? Plus de sel, donc. Parce que sinon, les gens sont tellement habitués à manger salé, que s'ils ne rajoutent pas du sel, les gens trouvent que ça n'a pas de goût. Mais ils savent très bien, il suffit de dire de ne plus rajouter du sel.
Je ne crois pas. C'est mon expérience. manière à ce que le care soit rémunéré. Je n'y crois pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobbying important de certains types de médecine qui ne représentent pas beaucoup de gens, qui représentent beaucoup d'argent, qui s'opposent aux gens de mouvement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut agir au niveau individuel. C'est-à-dire, ce que je dis ici, je le redirai chez des médecins, chez des infirmières, je vais l'écrire, je l'ai déjà écrit, je pense qu'on est quelques-uns à penser que ça peut essayer. Et c'est toucher l'individu, toucher le médecin, toucher l'infirmière, toucher le kiné, qui lui se rend compte que lui n'en vit pas de la machine, lui ne vit pas des mêmes gains que l'hôpital, et que lui peut s'inscrire sur notre démarche. Et lorsqu'il y aura une masse critique, ça prend du temps, une masse critique d'un corps soignant suffisamment importante, pour justement se faire entendre. Il y aura les élections prochaines, en juin, pour voter pour les syndicats. Je ne suis absolument pas convaincu que les personnes qui vont ressortir de là, qui seront élues, représentent vraiment les médecins du terrain. Pas convaincu du tout. Il y a un système de vote, de choix, mais je ne crois pas vraiment au réel état démocratique de ces élections. Mais bon, quelqu'un va ressortir. Mais le jour où sera perconnu, hein, cette idée de guerre chez certains de ces médecins, qu'il y aura peut-être un autre syndicat, une autre instance, qui aura vraiment les difficultés. Maintenant, on se positionne comme un lobby important, incontournable, et on veut que ça change. On veut revaloriser l'acte intellectuel dont vous parliez. Tout à fait raison. C'est ça qu'il faut valoriser le plus. Ça veut dire qu'il faut retirer l'argent pour la technicité, mais actuellement, il y a un déséquilibre flagrant. On veut revaloriser financièrement ça. Ça veut dire, la personne est partie, c'est vrai qu'on ne sortira jamais totalement du marchand et de l'incitant financier. On va passer à une illusion. On travaille aussi pour avoir un certain revenu, puisque même si on est très sobre, il faut un moment d'argent. Mais que ça ne devienne pas le moteur, et que ce ne soit pas le frein. Ici, ce n'est pas seulement une question de moteur, c'est une question de frein. Que la rémunération ne devienne pas un frein à pratiquer le care. Que ça ne devienne ni un moteur ni un frein. Que ce ne soit plus un incitant du tout. Que ce soit un soutien, tout simplement.
Qui est un choix.
Qui est un choix. Qui est un choix.
Par rapport aux questions de liberté et de cause de début du débat, que la réponse ne soit pas venue avec l'ensemble des choix possibles. Donc le lien que vous faisiez justement en exposé la première partie avec la capacité, et je pense qu'il y a une liberté à quel moment il y a au moins un choix. Alors la liberté n'est pas totale, tous les choix ne sont pas possibles au même moment pour tout le monde, mais à partir du moment où en tout cas la question peut être posée, au minimum est-ce que je fais A ou B, là il y a quelque chose qui est net en termes de liberté.
Ils sont vraiment pendus aux lèvres du médecin qui n'ont aucune autonomie et qui même, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent, ne sauraient pas quoi en faire. Donc il faut être prudent, allègrement, doucement, ils ne sauraient pas quoi en faire. Ils sont désarmés par rapport à l'autonomie qu'on leur donnerait du jour au lendemain. Donc il faut être extrêmement prudent.
Je veux dire, c'est pas une prétention d'être au-dessus des limites de tout le monde sur ce point-là. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'une préparation, une éducation à la liberté, une acquisition de liberté, va modifier énormément l'état dans lequel vous arrivez, dans cet état progressif de perte, etc. Ça va changer fondamentalement. Oui. Mais il faut faire tout. Il faut faire tout.
Et alors, d'être ajouté aussi une littérature aussi importante sur le burn-out des études commençantes. J'ai très récemment un article sur la détresse morale aussi des soignants, qui peut générer du burn-out, un épuisement professionnel. Le sentiment, on peut lire que le sentiment pour le médecin d'être incapable de faire ce pour quoi il a été formé, c'est-à-dire de guérir, de voir qu'il peut pratiquer parfois une médecine qui ne convient pas. À la place du patient, je n'accepterai pas. Mais, vu les contraintes budgétaires de l'hôpital, et puis la formation, ils le font quand même. Les font connaître une détresse morale très importante, une remise en question fondamentale.
Et aussi le fait de devoir porter la responsabilité de leur patient.
Oui, mais justement.
Que le patient ne pourrait porter.
Et donc, dans ce sens-là, on revient ici, hein, inversé, peut-être pas totalement inversé, mais en tout cas, partager. Mieux partager cette responsabilité progressivement, mais de manière soft, douce. Je ne crois pas, je suis séduit par Illich et son radicalisme, hein, mais en même temps, soyons concrets, soyons pragmatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça que j'essaie de proposer, c'est une démarche lente, douce, à notre niveau, et essayer d'avoir une contagion. Ça, j'y crois. Je ne crois pas à des réglementations qui vont changer les choses. Mais si nous changeons, alors ceux qui nous dirigent devront changer, parce qu'ils émaneront de nous, ils auront changé aussi, et là on peut croire à un monde différent.
Mais, si prendre en compte la limite de l'exercice de la raison, on derrière, certaines personnes, un corps souffrant n'est plus qu'un corps souffrant, et que l'exercice de la raison ne peut plus se faire.
Mais là, l'intérêt de la liberté. Quelqu'un d'autre porte pour nous. Donc effectivement, vous avez raison, un corps souffrant, mais il s'exprime encore. Et c'est là qu'il faut l'attentivité. Le corps souffrant, qu'est-ce qu'il me dit? Même s'il n'y a pas de paroles qui sortent, il y a peut-être un grand regard, où il y a quand même une expérience, un savoir. Voilà. Le corps souffrant me dit quand même quelque chose. Et je veux le respecter. Donc, je pense qu'on peut aller très très loin dans ce qu'est. On est vraiment extrêmement loin. Là, je ne peux plus rien. On peut toujours avoir cette attitude de respect et de liberté. C'est la liberté de l'autre et la promouvoir. Même quand il ne nous dit plus rien, qu'il ne bouge plus. Je crois.
Oui. J'ai bien aimé tout ce qui est dit. J'essaie de modéliser ça un petit peu et un peu apporter ce que moi je vis par rapport à ça. Je crois qu'il faut commencer par faire un constat, c'est qu'il y a une immaturité anthropologique de l'homme. Hein. L'homme est la seule créature qui est inachevée. Et il faut partir de ça parce que c'est ce qui fait qu'on fait de la souffrance et de l'inconscience. Et que donc, il y a tout un travail à faire sur nous-mêmes. Hein, sur nous-mêmes. Et cette notion de l'homme inachevé. Et alors, je rejoins la notion de liberté. De la liberté, c'est la liberté de choix. Et en fait, on est, pour moi, on n'est pas du tout libre, sauf une liberté, c'est la liberté d'aimer. La liberté d'aimer donne des pouvoirs extraordinaires. On pense ce que c'est qu'aimer, naturellement. Ça, c'est une découverte personnelle. Et à partir de ça, on devient un co-créateur. Et je rentre alors dans votre notion de care. Parce qu'au fond, la co-création, c'est devenir care, c'est devenir. C'est un état d'esprit qu'on peut créer, engendrer,
part du développement personnel sur soi. C'est vraiment, il faut s'occuper de soi. On ne peut donner que ce qu'on a. Or, on ne sait pas être. Et donc, c'est tout ce travail qu'il y a à faire. Et donc, la contagion dont vous parlez, contagion, mais en effet, il faut la souhaiter, ben, il faut commencer par l'être soi-même. Et il faut s'occuper de soi. Et ce n'est pas du narcissisme, c'est au contraire, la véritable générosité commence par soi. Donc, cette notion de care, moi, je crois qu'elle peut exister partout. Comme vous avez dit tout à l'heure, marchand, moi, je ne mets même pas ça en ma position. Je suis chef d'entreprise, j'ai été chef d'entreprise, j'ai créé 15 entreprises, et je crois avoir fait un petit peu de care dans toutes mes entreprises. Et on peut faire ça partout. Alors, et donc, la base de tout, pour moi, c'est l'éducation. Là, je rejoins vraiment madame. L'éducation à partir de l'âge de 1 an, 2 ans, ça c'est la base du développement personnel. Et donc on doit tout mettre là-dessus, parce que, d'ailleurs on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu ce film sur l'expérience de Milgram là, avec la mort, etc. Eh bien en fait, faire un choix devant la médecine, devant un expert, on ne pourra le faire que si on a tout un travail avant. Sinon, on va... Même qu'on a le choix, on ne saura pas le faire parce qu'on n'est pas éduqué pour faire ce choix. Donc il y a tout ce travail. Donc, moi j'encourage surtout à faire du travail sur soi. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra faire de la contagion. C'est un peu le fil rouge que j'ai trouvé.
Je voulais juste préciser une chose, parce que je pense que là, il ne faudrait pas que je sois mal compris. Je n'ai pas opposé marchand et care. Ce que j'ai dit, c'est que marchand disait le care, on se tromperait.
Oui,
évidemment, c'est ce que j'ai dit, au sein de l'entreprise, on peut faire du care. Évidemment, mais...
Non, il n'y a pas de marchandiser.
Voilà.
C'est un bien infini.
Voilà, il n'y a pas de rareté dans
le
monde.
Il n'y a pas de rareté dans le monde. La seule chose, il n'y a pas de rareté.
En même temps, on peut tout miser sur l'éducation. C'est bien, mais il faut s'entendre sur quelle éducation, puisque on voit très bien que le degré de civilisation d'une société en termes d'éducation, l'Allemagne à la veille de la guerre de 40, n'empêche pas la barbarie. Donc, et à nouveau, probablement, on retrouve le care dans le sens que bon, ça va beaucoup plus loin que simplement former les gens, etc.
C'est l'éducation à être.
Et ça pose la question de comment on peut à nouveau aussi insuffler cela dans l'enseignement d'aujourd'hui.
J'ai des formules.
Parce que la grosse question, c'est vrai qu'à mon avis, on doit aller. Ça passe par ce changement individuel que tu évoques, mais on peut imaginer malgré tout qu'il y a des changements structurels, politiques, qui pourraient stimuler ou faciliter la contagion dont tu parles et qui passe par un. Par la contagion individuelle.
Mais des choses très concrètes, si on parle avec les choix en fin de santé, en Oregon, dans les années fin 80, on a été amené à faire des choix dans le système Medicaid. Donc on a supprimé les transplantations moelle, osseuse, une vingtaine, une trentaine de cas, pour étendre la couverture de soins de santé aux femmes seules avec enfants. Donc ça revenait au même budget. On a constaté que les transplantations ne donnaient pas de résultats, très peu efficaces. On supprime cela et on donne une couverture de soins à plusieurs milliers de femmes. Et ça a été fait sans discussion. Et sans discussion, sans article des journaux. Et puis un jour, petit garçon, Kobe Robert, 7 ans, pas de transplantation, meurt. Naturellement, on se rend compte que si on est gardé en médical sans remboursement, on ne fait pas mal. Là, les journaux ne s'en vont pas, c'est inacceptable. Là, ils se sont dit, on a peut-être fait une erreur. Ils ont commencé une procédure, et c'est là le seul cas dans le monde. J'ai été amené à faire une recherche là-dessus pendant plusieurs mois, comment on fait des choix de santé dans le monde. C'est le seul cas où on a fait une procédure de choix explicite. Ils ont commencé par rencontrer les gens, meetings, hearings, questionnaires, téléphoniques, rassembler les gens, et puis ils ont fait des formules avec efficacité, co-efficacité, ils ont fait des listes exhaustives, en fonction des différents classements, différents critères, et puis ils se sont rendus compte que leur glissement de cohérence, ils ont croisé, ça a pris des années, ça a peut-être pris une dizaine d'années. Et maintenant, si vous allez sur le site de l'Oregon, Medicaid,
vous verrez la liste exhaustive de prestations qui sont remboursées dans le système, données au système de santé. Donc, évidemment, c'est coupé, hein, c'est un budget pour l'indiquer, et on, pour 750, 760 prestations, après on ne rembourse plus. Mais c'est explicite, les gens ont participé, et il y a une certaine adhésion. Et il faut avouer, parce que ça a souvent été présenté comme épouvantable. Dire, c'est scandaleux, couper comme ça, 150 prestations. Mais que fait-on ailleurs? On fait la même chose, mais de manière implicite. On ne dit pas ce qu'on fait, les gens ne participent pas et le subissent. Donc là, on pourrait, d'ailleurs, j'y travaille de manière très concrète, hein, depuis quelques années. Bon, je pense que ça fait son chemin, on arrivera peut-être un jour, c'est que dans notre pays, le citoyen puisse participer aux choix prioritaires sur la santé. Alors, on ne peut pas lui demander s'il faut rembourser tel médicament plutôt qu'un autre. On ne peut pas lui demander des choses pour lesquelles il n'a pas de compétences. Mais vous posez des questions relativement simples qui déterminent d'autres choix. Et une fois qu'on a ces questions-là, on a ces réponses à ces questions-là, l'éduquer, le former, pour pouvoir lui poser des questions plus vite ou plus tard. Et arriver à cette adhésion complète, que les citoyens se disent, voilà, ce système, c'est moi qui l'ai voulu. D'abord, c'est moi qui le finance. De quoi est financé? 65% cotisation sociale, et puis le reste, impôt public, impôt direct, impôt indirect. C'est lui qui le finance. C'est lui qui en bénéficie. Donc il est normal qu'il ait voix au chapitre. Et si on l'éduque, on le donne voix au chapitre, réellement, avec une représentation à l'INAMI, avec le Parlement, on fasse vraiment des choix explicites et transparents, là, on a des choses extrêmement concrètes, structurelles, qui vont appeler certains à une certaine responsabilité et capacité. Ils se rendront compte qu'ils sont, on leur demande leur voix, donc ils vont s'informer pour pouvoir, et puis on a des patients qui vont le faire. Donc je crois que là, c'est des choses extrêmement concrètes, qui font leur chemin, mais qui se posent réellement à l'idée que certains pensent qu'ils sont démocrates, qu'ils savent ce qui est bon. C'est vraiment l'opposé du cadre et la liberté autonomique. C'est le paternalisme qui dit, moi je sais ce qui est bon pour vous. Mais ce sont les gens qui financent, qui subissent entre guillemets les soins, qui sont malades. C'est quand même assez étonnant que ces personnes-là, nous n'ayons rien à dire. Sauf en votant une fois de temps en temps pour un programme extrêmement vague, on ne sait pas très bien ce qu'il en sortira en termes de soins de santé. Donc là, il y a des exemples. Des exemples dans les États-Unis, il y a d'autres pays où on a aussi pratiqué de la sorte, on était moins loin. L'Oregon est vraiment l'exemple le plus abouti, vraiment très intéressant. Mais malheureusement, c'est américain, et souvent, et je suis aussi comme ça, je suis toujours de résistance par rapport à ce qu'il y a des États-Unis en termes idéologiques ou philosophiques, en disant attention, mais là, c'est un bel exemple. Et on a eu le courage de dire voilà ce qu'on va faire avec l'argent. Et là, on fait des arbitrages, dire voilà, on dépense, on veut ajouter 10 prestations, qu'est-ce qu'on retire au financement public? Ou qu'est-ce qu'on demande comme taxe en plus? Parce qu'au début, je ne me suis pas étendu sur la question, mais je pourrais refaire enseigner rien là-dessus, ce que j'appelle la privatisation implicite. Milton Friedman, bien connu comme libéral, écrivait un jour dans Le Monde, moins d'impôts égale état modiste. C'est le titre de son article, quelques années. Tout compris, évidemment. Et voilà, si vous faites payer moins d'impôts, sachez qu'en tant qu'État, vous devez être modeste. Parce que moins de recettes, c'est moins de dépenses, on reste à l'équilibre. On sait à quel point l'équilibre est essentiel. C'était vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, le traité de Maastricht, 3% respecté, ainsi de suite. Donc on sait très bien que si on réduit les recettes, il faudra réduire les dépenses. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est ce que les gens veulent? Parce que si on pose vraiment la question aux gens, vous voulez payer moins d'impôts, évidemment. Mais je veux dire aussi, si vous êtes prête à accepter qu'on rembourse moins la fin de santé, qu'on ait un bon renseignement, ou qu'il soit plus privatisé, qu'on refasse plus les routes. Ah non, pas ça. Alors, discutons. Voyons si on est prêts ensemble à mettre les moyens financiers pour financer des biens publics. Et donc c'est là aussi, la liberté ontologique, elle permettra cela également, de décider comment on affecte collectivement, on amènera une responsabilité collective, comment on affecte ensemble les moyens que l'on on a envie de mettre ensemble. Et là, je dois vraiment la solidarité, parce que certains seront toujours des nantis, à tous les sens du terme, je ne parle pas seulement du financier. Comment se positionne-t-on par rapport à cela parce qu'on est en bonne santé soi-même, en bonne santé active? Vous voyez, la solidarité telle qu'elle est actuellement, si elle n'est pas obligatoire, je crains qu'elle s'évanouisse totalement. Parce que Celui qui actuellement est en bonne santé a un travail. Il finance beaucoup de systèmes et n'en reçoit pratiquement rien. Il n'est pas fumeur, il n'est pas encore pensionné, il est plus rarement malade. Donc finalement, il n'est pas sécu, mais il ne reçoit pratiquement rien. Alors que son familial, c'est des enfants. Mais ce n'est pas vraiment ça qui lui permet de faire miracle. Si on explicite les choses, qu'on fait prendre conscience aux gens, vous avez autant dans le système, vous donnez autant dans le système que vous recevez si peu, et quand on dit maintenant ça vous êtes libre, on a un problème. Sauf si on éduque les gens à l'altruisme, au care. Mais il faut être très prudent. Donc dans la liberté, il faut être extrêmement prudent. On n'est pas, je ne pense pas qu'on soit actuellement, en état, en tant que citoyen, même plus généreux parmi nous, et plus favorable à la solidarité, on soit en état de ne pas être dans un système totalement libre, où chacun serait libre d'affecter les moyens. J'aurais bien craint par rapport à ça. Et pourtant, des idées de privatisation explicite de la santé existent. Je ne veux pas faire de politique ici, dire quelle partie. En tout cas, par exemple, si on voit la déclaration de l'AFEB, c'est clair. 50% devraient être privatisés pour tout ce qui est soins ambulatoires. Disons les soins ambulatoires, c'est ce qu'on appelle les petits risques avant. C'est 50%. C'est 12-13 milliards d'euros. Mais trouver les ressources financières pour continuer à les rembourser, je ne crois pas. Alors, évidemment, c'est toujours la métaphore du gâteau. Donc, il y a un côté, si on paye moins d'impôts, on sera donc seulement taxé, on aura plus d'offres de travail, plus de demandes de travail, plus de motivation, le gâteau va augmenter, et donc ce sera plus facile de prendre une partie pour la vérité. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il est tentant que la part du gâteau importante que certains ont actuellement, elle reste qu'elle est, et donc il y en a moins un peu plus. Donc, la liberté, il faut pouvoir la doser. Et je ne crois pas du tout en injonction réglementaire, un décret. Il faut vraiment travailler au niveau de l'individu. Ma porte d'entrée, je sais que l'éducation est importante, mais j'ai choisi une porte d'entrée que je connais, pour qui me concerne, pas seulement en tant que personne qui travaille dans la sphère de santé, mais en tant qu'individu. Je me dis, s'il y a bien un endroit où j'aurai envie de vivre, d'être vraiment libre, d'être autonome, en tout cas de voir le sentiment que je me suis là, c'est quand on me dit tu as ça comme maladie, tu vas prendre ça comme médicament, ça j'ai vraiment envie. Je me dis que ça doit être pareil pour tout le monde. Il y a un endroit où on est vraiment, on peut être pieds et poings liés, c'est l'hôpital, mais on peut aussi libérer. Donc c'est pour ça que je faisais le point d'entrée. Mais j'adhère, il faudrait partout, il faudrait agir de cette façon-là. Mais ça demande peut-être de décréter des choses. Et je n'y crois pas trop. Voyez, je ne crois pas trop actuellement pour l'autorité publique qui va décréter le care. J'ai une difficulté à penser ça.
Moi, j'ai trois médecins qui travaillent ici avec moi. Et ils me disent, on a fait 7 années de médecine, et on a reçu 1 pour 1000 de sciences humaines. Hein, et encore, c'est de la psychiatrie. Donc, on va commencer par la psychiatrie.
Oui, bien sûr.
Parce que tant qu'ils ne connaissent pas l'humain, comment voulez-vous qu'ils transforment en fait les soins. Ils ont stress, donc. Je me suis fait dire que en France, les médecins généralistes, la moyenne d'âge est 62 ans. Tellement ils ont des soucis, des morts par infarctus, etc. Tellement ils sont malheureux.
Oui, oui,
dans les
campagnes. Bon, le burn-out est très très présent.
Il est malheureusement déjà dit. Ce qui est encore une question brûlante pour s'il n'y en a pas, alors je veux dire, mais tu ne dois pas nécessairement t'étendre dessus et tu peux conclure. C'est la mesure dans laquelle le care n'est pas antinomique avec la bonne allocation des ressources. Parce que dans ce que tu viens de dire sur moins d'impôts égale état modeste, dans l'état actuel des choses, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, on voit très bien, par exemple, si on prend l'enseignement pour le cas, qu'on y consacre en fait beaucoup de ressources comparées à d'autres états, et manifestement, les résultats ne sont pas brillants. Donc il y aurait, a priori, avec une meilleure gestion de faire mieux avec moins. Et ça, je pense que c'est un message important, parce que souvent, en fait, de la part, tu parles de la FEB ou d'autres, on mélange un peu les choses. Et je pense que si on veut vraiment défendre
pour le care, il faut aussi montrer à quel point il peut contribuer à une meilleure allocation des ressources, qui va peut-être entraîner des décisions dures dans certains cas pour couper certains abus, certaines dérives, et pour, comme tu l'as dit, alors mieux allouer ces ressources.
Donc tu as raison, on mélange deux débats différents. L'efficacité de la raison des ressources reste une préoccupation importante, quel que soit le pari dont on dispose.
Voilà.
Mais je pense que la démarche du CARE va inévitablement aller vers une meilleure affectation au niveau micro de l'autre.
Exact.
Et donc, si on a un souci de l'autre et le souci de soi, inévitablement, on n'aura pas envie de pratiquer des thérapies inutiles, coûteuses, on n'aura pas envie de lancer des mots qui ne servent à rien. Donc, ça va de soi. Mais actuellement, pourquoi est-ce qu'on préconiserait des réductions du budget public? Parce qu'on se dit, avec moins, ils seront obligés d'être efficaces. Donc, il y a un nouveau écologique néoclassique qui revient. Enfin, on est tout à fait d'accord. Le CARE, c'est une façon d'allouer les ressources de manière efficace. On a bouclé la boucle.
On a bouclé la boucle. La question à laquelle on n'aura pas répondu, c'est comment, justement, vient dans le cœur d'un homme comme toi le CARE. C'est-à-dire que ça vaut pour nous tous. Mais ça, c'est peut-être l'objet d'un autre débat.